Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Je m'appelle François Allais et depuis 2017, je vais à la rencontre des entrepreneurs qui m'inspirent. PME, start-up, grandes entreprises, la mission de Serial Entrepreneur est de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat francophone. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ce 107e épisode, je reçois Romain Lanéry, entrepreneur et créateur de contenu depuis 10 ans. Né à Monaco, Romain a créé sa chaîne YouTube en 2013. 10 ans après, il est suivi par plus d'un million d'abonnés et a généré plus de 166 millions de vues cumulées. Véritable passionné par la technologie, vous l'avez peut-être connu à une époque sous le pseudo Tech News & Test. Aujourd'hui, son agent n'est autre que Manuel Diaz, que vous avez pu découvrir dans l'épisode numéro 84 du podcast. Dans cet épisode, Romain me raconte tout, l'environnement dans lequel il a grandi à Monaco, sa passion pour l'innovation technologique, l'évolution de sa chaîne de 0 à 1 million d'abonnés, son format préféré, 20 minutes avec, où il a notamment pu interviewer François-Henri Benamias, le PDG d'Audemars Piguet, ses activités en tant qu'entrepreneur, l'histoire de son podcast Take Out, ou encore son rapport à l'influence et à la création de contenu. Cet épisode est une pépite, j'espère qu'il vous plaira. Un grand merci à Romain pour sa sympathie et pour s'être véritablement livré sans filtre dans cet échange. Si vous souhaitez voir les coulisses de cette discussion, sachez qu'elle est également disponible intégralement en vidéo sur YouTube. N'oubliez pas, c'est très important, de vous abonner sur votre plateforme favorite, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, ou encore de partager l'épisode à votre réseau. Prenez soin de vous et on se retrouve mardi prochain pour une série spéciale de 3 épisodes. Salut Romain, comment tu vas ?
Attends, hey. Mec, tu m'as dit on fait un podcast, on trinque ?
Ah oui, putain, merde.
Tu voulais démarrer sans trinquer ?
Traquons au jus de pomme.
Au jus de pomme.
Et la pomme de qualité.
Ah, ça va, 23h, ça passe.
Ouais, exactement. Je crois que c'est la première fois qu'on trinque dans un épisode de Serial, et ça c'est quand même...
Ah, tu vois, t'as bien fait d'être cool. Venu.
Il fallait qu'on attende plus d'une centaine d'épisodes pour pouvoir trinquer, c'est quand même fou, tu vois.
Et merci, en tout cas, de l'invitation. J'ai vu l'interview avec Léo, j'ai vu l'interview aussi avec Manuel Diaz.
Exactement, il manquait juste une personne sur ce trio magique d'Influx.
Il y a un duo magique, si je peux apporter la pierre à l'édifice c'est super, mais trop cool, non, ça me fait super plaisir. Et j'en accepte vraiment très peu, en fait je me mets pas souvent tu vois, en mode face cam pour parler de moi-je et de ce qu'on fait. J'aime bien plutôt prendre la caméra pour essayer de parler de ce qui pourrait être bien pour les autres. Tu vois, donc c'est rare que je suis pas trop en train de parler, sauf sur Twitch, en fait.
Exactement.
En fait, on fait des podcasts en mode interview, ça s'appelle Take Out, quoi, aussi, tu vois.
Exactement.
Avec Emmanuel et Léo.
C'est un exercice qui est jamais simple, l'interview, et du coup, je te remercie d'avoir accepté, puisque ça va être un moment très cool. Il y aura évidemment aucune question piège, l'idée, c'est que je vais te guider.
Tu peux. Alors, combien je gagne ? Ah, c'est la question.
On parle quasi jamais d'argent sur Serial, mais potentiellement, on verra si on pourra parler de fiscalité de Monaco.
Ah ben, il y en a pas, c'est bien. Enfin, t'as une fiscalité incroyable, moi j'ai eu de la chance à la naissance, donc ça permet d'aller plus vite, plus loin. Et le vrai avantage, c'est toujours ce que j'ai expliqué, puisque je suis monégasque du coup, et c'est que ben, j'ai su, en fait, à un moment donné, quand j'ai lancé ma boîte, en me disant, putain, en fait, tu pensais de base que c'était nul d'être monégasque, parce que t'as l'impression toujours d'être le mec en dehors du reste. En fait, c'est super bien, parce que Monaco aide réellement les entrepreneurs, notamment commencer par la fiscalité, tu vois, par la TVA. Moi, j'ai démarré à 18 ans en mode, ce que j'ai pu facturer, j'ai pu le réinjecter vraiment dans ma boîte, à ma façon, etc. Donc ça, c'était une chance de fou.
De ouf. Ça tombe bien, parce qu'on parle de Monaco, et ma première question que je pose à chaque fois, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que t'as grandi.
Attends, il faut que je l'avoue. J'étais en stress, j'ai un peu préparé l'interview, j'ai vraiment retenu les questions.
Attends, cette première question est générique, ce qui arrive après, tu ne pourras pas le préparer.
Je sais, je m'en suis douté, j'ai préparé peut-être les dernières questions, parce que je me suis dit, putain, s'il me demande des refs ou des trucs, je vais pas savoir quoi dire, faut que j'ai des trucs. Tu me demandes du coup de...
Dans quel environnement est-ce que t'as grandi ?
Dans un environnement... plutôt super agréable. J'ai toujours eu la chance d'être écouté, même en tant qu'enfant. Peut-être un peu trop. Peut-être que c'est ce qui fait, tu vois, aussi, à un moment, mon côté, j'ai envie de lui mettre des tartes dans la gueule de temps en temps. Mais non, jusqu'à un certain moment. On va dire que c'était trop bien jusqu'à mes 16 ans et que je décide de tout arrêter et d'arrêter vraiment les cours, etc. pour lancer ma boîte et être en dehors du système. Là, c'était très compliqué parce que je suis né dans un pays et une famille très conservateur, quoi, tu vois. Moi, je suis né avec les filles, c'est rose, le papa, c'est bleu. Enfin, tu vois, ce truc-là. Et moi, j'étais pas du tout dans cette ambiance-là parce que j'ai beaucoup grandi et été élevé par mes grands-parents. Mes grands-parents ont joué un rôle, mais capital dans mon éducation. Alors, c'est ce qui m'a apporté une rigueur de fou et un travail de fou parce que j'ai eu la chance d'avoir un grand-père entrepreneur qui a démarré à 14 piges en faisant des trucs pour nourrir sa famille, tu vois. Donc ça, c'est vraiment une chance inouïe que j'ai eue. Et de l'autre côté, il y a aussi des mauvais côtés, c'est que forcément, tu as des générations qui sautent un peu au milieu. Il y a ma mère qui a été présente, évidemment, tout au long, tu vois. Mais voilà, c'est un cercle familial assez restreint. Et j'ai grandi à Monaco, donc dans un pays qui fait 2,5 km². Donc dès que j'avais la possibilité d'avoir un avion sans avoir, tu sais, le badge avec la personne qui t'attend à l'entrée parce que t'es un enfant mineur, je me suis cassé le plus vite rapidement possible pour essayer de faire le tour du monde parce que je me suis dit à un moment, en fait, c'est trop cool, tu partages ta passion sur YouTube, mais si tu peux découvrir ce que c'est que la vraie vie. Monaco, j'adore, hein, j'appelle ça le Walt Disney des adultes. Tu vois, j'adore, c'est trop bien, mais en tant qu'enfant, c'est un village, quoi. Tu vois, tout se sait, tout se connaît, tout se ressemble. C'est super, mais c'est un peu Alice au pays des merveilles, quoi. Tu vois, c'est pas forcément le monde réel où tu te prends des vraies claques et où on t'apprend dès le plus jeune âge que la vie c'est dur, la vie ça pique. Non, t'inquiète pas, on t'aidera. Non, ça ira, etc. Moi, je déteste ça. Il faut que je me réveille le matin en sachant que ce que j'ai là, c'est grâce à moi, pas grâce à ce qu'aux ancêtres ont fait ou je ne sais quoi, quoi. Tu vois, moi j'avais vraiment ce truc-là. Donc j'ai grandi là-dedans, oui. En essayant de me séparer un peu de tout ce contexte familial trop bien.
Elle est marrante cette métaphore, Monaco, le Walt Disney des adultes, j'aime bien.
C'est un peu ça, c'est vrai, c'est trop beau, c'est trop bien, ça sent bon, t'es en sécurité, c'est génial. Mais à un moment donné, je pense que notre génération, en fait, les précédentes générations ont vécu des choses parfois tellement dramatiques qu'elles ont voulu protéger les nouvelles générations de ces choses-là. En essayant presque de faire croire parfois que... Alors, t'avais l'ancienne génération qui disait « Pour réussir, faut être bon à l'école. » Et maintenant, t'as la génération qui te dit « T'inquiète pas, tout ira bien. Tu fais ce que tu veux. Écoute-toi, surtout. Tu veux faire de la musique, fais de la musique. C'est... Non, mais tu veux être chanteur, sois chanteur. Non, putain, c'est difficile d'être chanteur, en fait. Ça demande des années d'expérience, ça demande de faire du solfège, ça demande de faire des trucs... En fait, dès que tu veux être bon dans un domaine, tu vas passer par des trucs ultra chiants pendant des années. » Et ça, je l'ai compris très tôt et du coup, je voulais vraiment le vivre très tôt. Donc, j'ai essayé de m'extirper un peu de ce Walt Disney pour adultes pour comprendre ce que c'était que la vraie vie, quoi, tu vois.
Tu te lances sur YouTube en 2013.
Ouais.
Donc, il y a 13 ans, 10 ans.
Ouais.
10 ans déjà. Mm. C'est énorme. Est-ce que tu te souviens du premier produit tech qui t'a fasciné?
Donc, à 7 ans, tu as un premier portable à clapet. Tu joues à Snake, tu joues à Tetris. Donc, c'est rigolo parce que dans ma génération, on dit plutôt qu'on a démarré par l'iPhone. Tu vois, j'ai 26 piges, j'en ai pas non plus 36 ou 46, tu vois, qui font que t'as vraiment une génération presque de différence. Mais c'est comme si j'avais connu un peu la génération de mes parents et un peu la mienne. Moi, j'ai connu aussi l'arrivée des smartphones. La première fois que j'ai eu Siri en main et que j'ai dit quel temps fait-il demain et qui m'a répondu, cet enfoiré, j'étais mais comme un dingue. Je me suis dit, ok, je veux mourir pour ça, quoi. Je veux comprendre qui sont les êtres humains complètement tarés derrière cette techno. Et ce qui m'a plus fasciné, c'est pas forcément le produit en lui-même. Qu'un produit soit connecté, qu'il soit waouh, etc. Tous les ans, tu le vois, tu vas au CES, tu vas machin. Tu vois tout le temps, on est dans une société de consommation et c'est ce qui est génial et c'est ce qui fait que t'as plein d'entreprises qui prospèrent et voilà, après on en pense qu'on veut. Mais du coup, ce qui m'a intéressé vachement par la suite, c'est notamment ce qui a donné lieu à cette série 20 minutes avec sur YouTube. C'est passer 20 minutes avec les gens qui sont derrière ces technologies-là. Quand on était avec Jean-Brice Dumont, vice-président de l'ingénierie Airbus, et qu'il est en train de t'expliquer, qu'il est assis à côté de toi, qu'il a développé le Concorde, et qu'en fait, il était en vol pour synchroniser le Concorde. C'est-à-dire que moi, je l'imaginais, Jean-Brice, tu vois, à côté, café et tout, café, t'as le Concorde à côté qui vole, et lui, il touche les boutons, puis t'as le Concorde qui s'ajuste. Ça, c'est fou, quoi. Tu vois ce truc-là, tu te dis, attends, ok, en fait, c'est pas que des robots qui travaillent. C'est qui les gens complètement tarés qu'il y a derrière? Et c'est comme ça que j'ai plus décroché après des nouvelles technologies au sens large, que je me suis intéressé très vite à la blockchain, que je me suis intéressé très vite du coup à la finance, parce que quand tu t'intéresses à la blockchain, tu te dis mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être décentralisé? pourquoi est-ce que les gens sont pas contents de faire confiance à une entité, pourquoi, et puis tu découvres la crise des subprimes, et puis tu découvres, donc en fait c'est tout ce qui m'a amené à essayer de grandir dans un monde d'innovation technologique qui parfois peuvent paraître incompréhensibles pour mon public, parce que un jour tu me vois tester des devis aller, le lendemain sur Twitch je parle de finance et de blockchain, et puis après je parle de prêt immobilier, et puis les gens ils se disent, mais en fait tout ça c'est complètement combiné. Quand tu vois des sociétés, des startups comme Brix qui te permettent un investissement immobilier à partir de 10 euros, quand tu... tout est lié en fait. On vit dans un monde qui innove autour des nouvelles technologies. Donc c'est là-dedans que j'évolue maintenant et c'est ce qui m'a piqué dès le début.
Est-ce que tu te souviens de ta toute première vidéo sur YouTube ? Tu vois, celle qui est en ligne.
La chaîne a été reconstruite après. Au départ, il y avait Tech News Romain.
Oui.
Tech News Romain, c'était pépite. c'était les commentaries de Call of Duty pour m'amuser au début. Il y avait des trucs complètement rigolos qu'on s'amusait à faire pour essayer de, après, ajuster un peu la ligne éditoriale. Et la première vidéo, je crois que c'était le Canon EOS 1000D. En fait, à 13 ans, j'ai eu un Canon dans les mains. Après, la vidéo que j'ai repostée sur cette nouvelle chaîne, c'était la vidéo du Grand Prix de Monaco, où je me suis amusé à faire des interviews et tout pendant le Grand Prix de Monaco. La plupart de la vidéo a sauté d'ailleurs. On a re-upload que 1 minute 30 sur 15 minutes de vidéo. C'était marrant. Mais il y a eu plein de vidéos comme ça au début. Mais ce qui a lancé la genèse de la chaîne YouTube, c'était surtout de vouloir avoir accès à des infos qui n'étaient pas présentes en français. À chaque fois, je tombais sur des Anglais. Unbox Therapy, Marques Brownlee. C'est les deux personnes qui m'ont fait dire que, attends, si elles ont 10 ans d'avance, que moi j'ai 16, à 26, c'est un métier. Parfait, on continue. Tu vois, c'est exactement ce qui s'est passé. Et quand je les ai vus tester des produits tech qu'on testait pas en France, où personne n'avait... Enfin, moi, je faisais un truc très con, c'est que quand j'allais à la Fnac, pour acheter un produit à Monaco, parce qu'il n'y avait que la Fnac à Monaco, avant d'acheter le produit, j'allais vite, je demandais au vendeur vite fait, je l'écoutais à moitié, puis après, j'allais vite sur YouTube taper le nom du produit. Et je me suis dit, mais il y a plein de gens qui doivent faire pareil. Donc j'ai commencé, quand j'ai acheté le produit, à vouloir essayer de tomber, moi aussi, sur la homepage des gens, avant qu'ils aillent acheter un produit. Okay. C'est comme ça que ça s'est lancé.
Ta première vidéo en ligne, qui est encore en ligne d'ailleurs, enfin, je ne sais pas si c'est la première, mais je pense que c'est une des premières, je suis allé la voir du coup, c'était l'After GP Monaco 2013-IRL.
In real life.
Exactement.
You know what I mean. On est là, on sait pas parler anglais, mais vas-y. Hein.
Qu'est-ce que ça te fait quand tu regardes du contenu qui date d'il y a 10 ans, quand tu te revois
bien.
Comme ça?
C'est trop bien. Il y a des gens qui font moins bien encore aujourd'hui. Moi, je suis trop content. J'avais mon sujet, j'avais mon truc, j'osais. En fait, c'est ça dont je suis le plus fier, c'est d'avoir osé. D'avoir été dans un contexte où tu oses, quoi. Tu oses t'en prendre plein la gueule, tu oses pas avoir de poteau au lycée parce que les gens font « Ah, c'est YouTube, là !» C'est vrai, mais c'est pas grave. T'as toute ta vie pour avoir des amis, t'as toute ta vie pour avoir un cercle proche, etc. Tu vois, donc je pense que le truc dont je suis le plus fier, c'est juste d'avoir osé. Après, oser et se planter, c'est une conséquence. C'est pas le projet. Le projet, c'est oser. Et ce que tu apprends au milieu, ça fait partie, le fait de se planter. Et tu te plantes encore aujourd'hui sur plein de trucs. Mais je pense que c'est ça qui m'anime le plus. J'ai aucune vidéo où je me dis « Ah, ça c'était vraiment nul », où je regrette, etc. Parce que chaque vidéo, chaque situation m'a appris à être meilleur le lendemain. Et c'est pour ça que, surtout maintenant, aujourd'hui, au sein de Influx, puisqu'au-delà d'être créateur, tu en parleras peut-être après, mais j'essaie de transmettre dans un autre univers maintenant, plus business. Et c'est la première chose qu'on dit aux créateurs. C'est super, t'as des idées, ok. Tu peux me sortir l'idée là dans 2 heures sur ta chaîne YouTube ? Non, mais il faut que je la prépare. Non. T'as l'idée ? Allume ta cam. Publie. Ah bon, pourquoi ? Ben, ça sera fait. T'auras les retours de ta communauté, t'auras un truc, ça sera nul. Mais au moins, tu sauras quoi améliorer. Peut-être que là, tu vas travailler sur un truc pendant des jours que tu veux améliorer, alors qu'à la fin, tout le monde s'en battra les couilles quand ça sera en ligne. Peut-être que ce que t'aurais dû améliorer, c'est pas du tout ça. C'est plutôt complètement autre chose. Et du coup, pour le savoir, publie le plus rapidement possible. Fais. Et parfois, c'est un peu chelou parce que tu peux... Enfin, j'ai pu connaître des process assez importants de boîte, etc. Tu vois. Et t'as les gens qui te disent dans un call... ça serait bien qu'on fasse ça, mais la demi-heure d'après, j'ai appliqué le truc. Et les gens me disent, mais attends, t'es pas prêt. Ouais, mais regarde, ça marchera pas, ça, il faut l'améliorer, ça, on fait. Ok, la semaine prochaine, ça sera dispo, par contre. Ah ouais, bah, au moins, tu l'as fait, quoi, tu vois. Et ça, moi, c'est ce qui m'anime le plus. C'est de me dire, fais, même si c'est pas parfait. Et c'est ce qui, parfois, fait que tu fais des trucs pas ouf, mais c'est pas grave, t'es actif, tu fais un truc qui te plaît, etc. Et puis après, tu l'amélioreras, peut-être qu'il y aura une super vidéo au milieu, etc. Mais personne, Tesla serait pas là, Apple serait pas là si on avait attendu que ce soit parfait, quoi, tu vois. C'est impossible.
Tu vois, sur la centaine d'épisodes qu'on a enregistrés sur Serial, c'est une des choses qui revient très souvent, le fait de... C'est en faisant qu'on apprend finalement, tu vois. L'idée, c'est pas de chercher à apprendre quelque chose pour ensuite le faire, mais plutôt de le faire pour apprendre, tu vois. Et tu vois, le podcast, ça a été un apprentissage aussi, tu vois.
C'est trop bien.
Avant de lancer le podcast, je savais pas faire des podcasts. Et ça s'est fait comme ça, tu vois.
Et je trouve ça génial, dis-moi ce que t'en penses. Mais tu lances en plus un projet et tu dis... Voilà ce que j'imagine faire. Je sais pas trop si ça se fera comme ça, mais maintenant que je vous l'ai dit, on y va, quoi. Et ouais, quand t'as fait le premier épisode, tu te dis, bah, il en faut un deuxième. Et quand on a fait un deuxième, bah, tu te dis, il en faut un troisième. Alors que quand t'attends que ce soit parfait avant le premier, bah, tu le fais jamais.
C'est ça. Et après, dans l'eau, il y a forcément du très bien, du moins bien, mais c'est fait. Donc c'est important de le rappeler. Comment est-ce que t'as vécu l'évolution de ta chaîne depuis 2013? Ce passage de à 1 million d'abonnés en 10 ans. C'était une étape importante pour toi? Je sais que potentiellement, tu t'es dit, après 1 million, on stoppe, potentiellement.
En fait, il y a une histoire derrière tout ça. Quand j'ai commencé YouTube, ma mère qui m'a toujours soutenu dans l'ombre, etc., etc., tu vois, elle cherchait pas à savoir si c'était bien ou pas. Elle trouvait que je m'épanouissais et qu'en même temps, j'allais pas me droguer et ni faire la fête. Donc, elle était super contente de me mettre devant une cam et de se dire, bah, au moins, il fait des trucs qui lui plaisent. Il est à la maison, je le gère, et ça a l'air pas dangereux. Vas-y, laisse-le faire, tu vois. Et un jour, et c'est l'histoire, je l'ai raconté très peu de fois, mais je suis arrivé dans la cuisine, j'avais passé les 100 abonnés. Et je lui avais dit, tu vois, maman, il y a 100 abonnés, c'est deux fois la taille de ma classe, etc. Je suis sûr que je peux aller jusqu'à 1 million d'abonnés, etc., comme Cyprien. À l'époque, c'était Cyprien qui avait 1 million d'abonnés. Et ma mère m'a dit la phrase suivante, et il faut se rappeler à l'époque, je le suis toujours, mais mec insupportable, très prétentieux, tout ce que tu veux, ok. Elle me dit, oui, mais tu sais, chérie, des gens qui ont 1 million d'abonnés, il y en a 1 sur 1 million. Et je lui ai répondu, je serai ce 1 sur 1 million. Donc, c'est juste petit ego. Moi, je suis un mec plutôt en mode championship, tu vois. Quand il y a un truc qui peut mieux se faire, je vais plutôt être beaucoup dans la course et beaucoup dans le côté qui est la plus grosse, hein. Ça clairement, tu vois, je l'assume tout de suite, mais c'est ce qui me pousse toujours à essayer de faire mieux, et etc. C'est que je regarde les autres et je me dis, mais attends, j'ai pas l'impression d'être plus con que l'autre, vas-y, essaie d'apprendre, essaie de t'exercer et de faire. Donc j'avais ce truc-là de me dire, c'est un chiffre symbolique de l'époque dans laquelle j'ai démarré. Aujourd'hui, la réalité, c'est que je m'en fous. Parce qu'aujourd'hui, je peux faire des vidéos qui font 15-20 000 vues, qui ont 10 fois plus de valeur en termes d'impact, de relations humaines. Il y a des gens que je rencontre avec des vidéos Tesla qui font peut-être moins de vues, etc., qu'à l'époque sur des top 5 à moins d'un euro Amazon où tu faisais 500 000 vues. Mais aujourd'hui, t'as des banquiers d'affaires, t'as des avocats qui m'arrêtent dans des chargeurs Tesla pour me parler. Je suis en mode, mais attends, c'est incroyable. Moi, j'ai 26 piges, t'as un mec de 50 balais qui vient, qui m'arrête et tout. Donc en fait, ça te pousse aussi à faire dans une thématique qui est plus niche. Donc le chiffre 1 million d'abonnés est super chouette, surtout pour encore les agences, les marques, etc. C'est quelque chose qui rythme encore beaucoup notre marché. C'est combien de personnes vont voir ma marque apparaître même s'ils ne cliquent pas dessus. C'est un fait, c'est vrai. J'ai réussi à réunir 1 million de personnes sur une chaîne YouTube. Je suis trop content de ça. Maintenant, ce qui fait plutôt ma fierté, c'est de voir les projets qu'on peut mener et l'impact sur certains projets. Enfin, ça me tue de me dire... On fait un tour de France des setups. T'as des jeunes qui m'ont envoyé leur setup, qui ont participé à un concours. On va vraiment allouer 3 jours de notre putain de vie à dormir 2 heures par nuit pour faire le tour de France et aller voir des setups pour leur dire leur cable management est bien. Genre, ça me tue de créer ce truc-là. Au milieu d'une chaîne où 2 semaines après, t'as 20 minutes avec François-Henri Benamias, le CEO d'Audemars Piguet. Tu vois, en fait, c'est ça la magie de ce que ça a pu m'apporter. En fait, tu vois, ce nombre d'abonnés, etc. C'est plutôt qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que t'en fais? Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est impossible de contenter tout le monde. Sinon, t'es obligé de faire des chaînes comme MrBeast, comme AmixM, comme Squeezie, sur du gros divertissement, etc. Parce que forcément, aujourd'hui, YouTube remplace la télé. Donc, c'est comme si Arte te dit demain, non, mais attends, allez, je suis à la télé, faut que je fasse autant d'audience qu'Hanouna. Tu vas lui dire, alors attention les gars, je compare pas. Hanouna, Squeezie, MrBeast ou AmixM s'il vous plaît. Hanouna est là, les autres ils pètent le cadre, ok, on est tous d'accord là-dessus, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, mais je pense que c'est ça, tu vois, c'est le fait de se dire on a une plateforme de diffusion géniale et sers-toi des réseaux sociaux pour faire différemment en fonction de là où t'es. Par exemple, TikTok, Instagram, Twitch, ça explose versus YouTube qui se stabilise plutôt, tu vois. Parfois, on fait 50 000 vues, parfois, on en fait 300 000 en fonction des gens avec qui on est, etc. Mais ce qui est rigolo dans tout ça, c'est d'avoir pu apprendre comment ça fonctionne. La réalité, et je l'ai dit, ça a fait marrer tout le monde sur Twitch à Noël, je leur ai dit, ça me saoule de faire 30 000 vues, je vais faire un top 30 machin de produits pour Noël, on fera 100 000 vues. Ils m'ont dit, ah, mais c'est bon, c'est facile à faire et tout. Putain, tu sors le top 50 idées de cadeaux pour Noël à moins de 500 euros, hop là, 80 000 vues en 3 jours. Donc en fait, tu sais faire des vues, tu sais faire de l'audience, etc. Je pense qu'il ne faut pas se la péter avec ce truc-là. N'importe quel gamin aujourd'hui ouvre TikTok, te fait des millions de vues. Qu'est-ce que tu racontes derrière? Quel est le storytelling? Quelles sont les équipes avec qui tu le fais? C'est quoi l'humain qui ressort de tout ça? Ça, c'est vachement plus chouette et plus dur.
C'est pour ça que ce million, en fait, il t'a amené à faire des choses beaucoup plus puissantes que juste une chaîne YouTube, tu vois, même si une chaîne YouTube a un million d'abonnés, c'est déjà très, très, très solide. Mais du coup, toi, derrière, ça t'a permis de, vu que t'as un côté véritablement d'entrepreneur, de développer tes business à côté.
Bien sûr, et puis en fait, de gagner en confiance. Je te donne un exemple tout con, je ne sais pas si Manuel aurait accepté de me rencontrer pour prendre un café si j'avais pas eu une chaîne à 1 million d'abonnés. Peut-être qu'il se serait dit, bon, c'est un parmi tant d'autres. Je sais pas.
C'est une bonne carte de visite.
Ben, c'est exactement parce que tu dis, bon, peu importe ce que tu fais, etc., voilà ce que moi j'ai fait les 10 dernières années, voilà ce que ça a généré. T'aimes, t'aimes pas, mais les chiffres, ils sont là. Et les chiffres, ils mentent pas. Donc, dire que sur, je sais pas combien on a fait maintenant, ça se compte en dizaines de millions de vues, etc., sur la chaîne.
163 millions.
C'est pas mal. C'est pas mal. Donc non, ça c'est chouette. C'est chouette. Ça ne définit pas qui tu es, mais ça définit ce que tu as appris et ce que tu pourrais potentiellement mettre en place. Et ça peut être des exemples tout bêtes, comme après d'autres chaînes YouTube qu'on a lancées. Je pense à Franck Sensé sur l'horlogerie. Franck, qui est un ami, qui est venu nous voir chez Influx, qui voulait lancer sa chaîne YouTube, il part de zéro. On a fait 100 000 abonnés en 4 mois. 6 mois, un truc comme ça. C'était génial. Je suis trop content, tu vois, de me dire, putain, en fait, il y a quand même des codes que tu comprends et tout, et que tu peux en aider d'autres à lancer, tu vois, des chaînes, etc. Ça, c'est super. On le fait aujourd'hui encore, même avec des très gros médias. Là, Influx a communiqué, on aide Guillaume Play à lancer Legend. C'est quand même fabuleux. Tu te dis, putain, tu es dans des équipes maintenant où tu t'attaques à des médias où de base, tu pensais qu'il n'y avait que des grosses régies publicitaires et autres qui pourraient le faire. Et en fait, non, ce qui compte le plus derrière, c'est l'humain, la technique, le savoir-faire. C'est ça qui prime d'abord. Avant de parler de millions d'euros sur la table et de dire non mais t'inquiète moi je te donne ta machin et tout tu vois ça à la fin de la fin les vrais créateurs de contenu ils s'en foutent ouais, c'est clair. Donc je pense que c'est une bonne carte de visite effectivement de miser plus sur ce que t'as fait, ce que t'as déjà raconté, ce que t'as appris plutôt que ce que tu pourrais donner là maintenant tout de suite.
Avant de parler d'Influx, j'aimerais parler des formats qui te font le plus kiffer sur ta chaîne. C'est quoi le format sur lequel tu prends le plus de plaisir?
C'est triché, mais c'est évidemment 20 minutes avec. Ouais. Je rencontre des gens que je rencontrerai jamais en dehors de ce format-là. Ça, c'est un format qui est super enrichissant. Moi, de toute façon, c'est les formats qui sont toujours touchés à l'humain, etc. Je te donne un exemple. Je crois que le format dont j'ai parlé le plus la fin de l'année, c'était le Tour de France des setups. Tu as présenté des setups d'abonnés, ça a fait 40 000 vues. C'est pas le truc que les gens retiennent. Mais moi, ça m'a super marqué parce que je me suis dit, putain, il y a vraiment des gens qui depuis 10 ans suivent la chaîne YouTube et on va chez eux, quoi. Genre, ils nous reçoivent chez eux, on va... Et je pense que ça, c'est des... Enfin, moi, ce qui m'anime toujours, c'est les contenus quand je rentre et que je me réveille le lendemain et que je me dis, ok, c'est pour ça que je le fais. Après, prendre un nouveau produit, le présenter à l'heure de l'embargo et faire 300 000 vues, tout le monde sait le faire. Tout le monde. Faut juste avoir le contact, le produit et tout. C'est pas compliqué à faire. C'est pas... Faut avoir un peu le storytelling, le bagou, le truc, un peu l'expérience, mais c'est pas compliqué à faire. Il faut le faire, voilà. Mais par contre, faire un truc où tu te dis, putain, là, bah, en même temps, ce format-là, si je le fais pas, personne le fait. Ça, c'est cool, tu vois. Ça, je trouve ça cool. C'est ce que j'aime beaucoup et ce que je respecte énormément dans le travail de Léo. À chaque sujet qu'il traite, tu te dis, mais tu vois ça nulle part ailleurs.
Je suis d'accord.
Et ça, c'est fort, quoi. Alors, j'ai pas cette prétention-là. Je pense que mes contenus sont quand même dans des thématiques assez globales. Mais 20 minutes avec, tu sors quand même un dirigeant d'un plateau BFM TV, quoi. Il va pas te raconter la messe comme BFM TV. Tu vas vraiment parler avec lui comme si c'était un pote. Et ça, c'est incroyable. Cette proximité-là est incroyable avec ce format.
C'est quel invité qui t'a le plus marqué sur le format 20 minutes?
Bah, François-Henri Benamias.
Ouais.
Ouais. C'est... Ah non, c'est une audace. C'est un charisme. C'est... Je me suis entraîné pour pouvoir parler normalement en me disant tu vas être face à un charisme et à un personnage. Je me souviendrai tout très vite.
Comment tu te prépares sur ce
jeu? Déjà, j'ai la chance d'être bien entouré avec Léo qui m'aide beaucoup sur ces formats-là, Manuel aussi, Manuel Diaz qui a travaillé avec, que ça soit dans la mode avec des gens exceptionnels comme Karl Lagerfeld, dans la politique aussi avec des gens comme Nicolas Sarkozy. Mais au tout début déjà avec Manuel, j'avais fait comment ça s'appelle, du media training.
Oui.
Ça, il m'en avait fait faire un peu et tout, c'était super intéressant. Et après. Tu t'entraînes avec un texte assuré en te disant que de toute façon, c'est ta vidéo, c'est ta chaîne, tu coupes quand tu veux, tu dis non, attends, là on va refaire, là t'as bégayé, là t'as ton truc. Et en fait, plus t'es comme ça, plus la personne en face va te respecter, va se dire putain, attends ton rôle. Et je m'étais dit, faut que je sorte un truc ou une punchline qui fasse que dès le début, ils comprennent que tu vois, ça va pas glisser, ça va être en mode un peu friction et en mode on va s'écouter l'un et l'autre, mais. Par contre, c'est toi qui... Enfin, je veux dire, l'interview, elle est pour toi. Donc, moi, je ne suis pas du tout en train de me mettre à la même échelle que la personne, tu vois. Mais essayer de faire respecter un peu ce que toi, t'envisages et tout, parce que c'est des gens qui savent tellement bien faire qu'ils veulent... À un moment, ils peuvent presque faire tout à ta place, quoi, tu vois. Donc, il est arrivé dans le bureau et il arrive en gueulant. Il dit « Ouais, quoi ce bordel ici? Ils sont où les jeunes ?» Machin, tiens, en mode, il appuie le truc et tout. Je fais « Ah bah, écoutez, on est là, on a fait exactement comme chez nous, mais on n'a pas oublié que j'étais chez vous. » Et il était mort derrière, tu vois, dès le premier truc, tu vois, c'était mignon. Mais non, ça, je pense que c'était la rencontre de cette dernière année qui était un peu folle.
Ouais.
Ouais. En plus, c'était un enfer parce qu'on avait fait une interview 20 minutes avec juste avant. C'était avec N26. Donc déjà, j'étais très stressé. C'était pendant une certaine polémique autour d'N26, etc. Et je voulais vraiment les aider parce que je comprenais les enjeux des banques de demain, etc., qui ont les mêmes enjeux que les grosses banques, sauf que les grosses banques, vu qu'elles ne sont pas sur Twitter, bah, tu ne leur craches pas de la même façon dessus, etc. Tu vois, donc je comprenais pourquoi je le faisais. On est parti le soir même et on a dormi 2 heures à peu près sur la route pour aller jusqu'en Suisse, au Brassu. Donc on a fait Paris-Suisse dans la nuit pour être PAT le lendemain à 9h avec François-Henri Ménagnas. Donc j'ai dormi 2 heures. Je crois que je me cognais à peine la tête dans les murs en récitant le texte, en essayant de tout faire.
Les meilleures interviews, ça.
Mais c'est exceptionnel parce que t'as toute l'adrénaline qui...
Ouais, bien sûr.
Quand t'as la personne qui arrive et qu'elle te dit oh, « Écoute, on est là, on fait ce que vous voulez, machin et tout. » Et en fait, ils te mettent trop à l'aise, je suis trop content. Et en plus de ça, ça produit des résultats. Il y a un mois après la sortie de la vidéo, François-Henri Benagnas nous recontacte en personne et nous dit « C'est quoi ce bordel? J'ai jamais reçu autant de lettres pour travailler chez Audemars Piguet. » Je lui dis « Attends, quoi, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Tu fais une vanne et tout ?» Non, non, je te jure, je déconne pas. J'ai jamais eu autant de jeunes qui ont découvert la marque. Qu'est-ce qu'on a foutu? Je comprends pas. Enfin, on est une marque internationale, mes potes, c'est Arnold Schwarzenegger. Qu'est-ce que tu me... Je dis « Ouais, mais c'est... tout le monde s'en fout de Audemars Piguet quand on a 17 ans, etc. » Par contre, quand on a la vision d'un humain qui nous touche, on a peut-être envie de partager des choses avec lui, quoi.
Et c'est là que tu vois la force de frappe.
Exactement, sur un secteur complètement différent et qui marie les deux. Mm. C'était magique.
Ok. On va pouvoir passer à Influx,
okay.
Qui a été lancé en 2018,
ouais.
Sur laquelle on a quand même pas mal discuté avec Manuel, mais j'aimerais quand même avoir ton point de vue là-dessus. Comment est-ce que tu as rencontré Manuel? On a eu sa version.
Écoute, non, c'était exceptionnel, une rencontre pas vraiment prévue, on se parle, il me raconte à quel point en fait... Au sein d'Imakina, de l'agence qu'il avait montée il y a 25 ans, les marques comprennent pas trop où passe leur fric, en gros, et comprennent pas comment on fait de l'influence. Et moi, je lui explique à quel point, en fait, tous les créateurs sont traités comme des bannières publicitaires. Et qu'il n'y a pas d'agent au milieu, quoi. Il n'y a pas, comme dans le monde de la mode, comme dans le monde du cinéma, un agent qui lève la main et qui dit « Non, toi, tu fermes ta gueule, toi, tu vas écouter. Non, toi, mon artiste, tu fermes ta gueule là, parce que là, tu sais que j'ai raison, d'accord. Et toi, la marque, non, t'es pas un panneau publicitaire. Donc, si tu veux être sérieux avec mon artiste dans son film, tu fermes ta gueule, tu vas prendre tes trucs, on va faire ça à sa façon, et ça sera très bien. Sinon, tu te casses et on en prend un autre. » Et ce ton-là, en mode, vraiment, on sait comment rendre... un lancement performant, etc., au sein d'une production et tout ça, on est beaucoup plus clément avec les clients. Hein. On vous dit pas ferme ta gueule quand t'arrives à une place, tu vois. Mais c'était vraiment ce qui a donné lieu, en fait, à cette rencontre et à cette envie de faire dans le monde du numérique. Emmanuel a dit un truc assez magnifique, je trouve, à un moment. Il a dit « Écoute, il y a 25 ans, on a créé les plateformes de marque. Maintenant, attaquons-nous au contenu. »
Ouais.
Et je trouve ça super. Et ça montre à quel point les vrais créateurs de contenu, pas les influenceurs, l'influence est une conséquence, c'est pas un métier. Il se trouve que si tu fais bien ton métier, tu seras de plus en plus influent. Si tu le fais comme une merde, tu pourras toujours être créateur, tout seul dans ton coin, sans influence. Voilà. Et tu peux faire de l'influence sans être créateur. Voilà. Mais quand tu maries bien les deux et que tu fais d'abord création et ensuite influence en conséquence, en général, ça marche beaucoup mieux. Et quand tu fais ça vraiment avec des créateurs, tu t'aperçois que ça marche et qu'on est dans une industrie qui en avait cruellement besoin. On peut pas aujourd'hui soit parler co-commerciaux, soit parler co-marques. En tant que créateur, on a besoin d'être conseillé d'un point de vue artistique. On a besoin de se prendre des cadeaux dans la gueule et dire non, ton idée, c'est de la merde. Là, le partenariat, tu vas pas le faire, je t'explique, parce que ça colle pas à ton image, ça marche pas, etc. Voilà.
Donc là,
c'est ce qui a donné lieu à Influx. Et du coup, depuis la genèse du projet, vu que moi, j'ai toujours adoré parler aux clients, aux marques, comprendre le marché, aider aussi les marques et aider les créateurs, j'ai très vite dit à Manuel, est-ce que je peux rester au sein d'Influx et travailler au sein des équipes du coup qui parlent au marché, aux marques, etc. Donc c'est ce qui aussi aujourd'hui occupe une grosse partie de mes journées. C'est comprendre les problèmes des marques, comprendre les envies des équipes artistiques chez Influx, et essayer de marier les deux pour que les équipes artistiques puissent donner vie à leur projet et que les clients puissent donner vie et remplir leurs objectifs business.
Ouais. Aujourd'hui, sur ta casquette d'entrepreneur, c'est quoi un peu tes différents business models, on va dire ?
Je sais même pas vraiment si je suis entrepreneur, tu sais. J'ai toujours eu beaucoup de mal à me décrire là-dessus parce que vu que j'ai beaucoup de mal à travailler avec les gens, un peu moins maintenant. Ça commence, mais c'est le début. J'ai toujours eu beaucoup de mal à travailler avec les autres, et encore plus pour les autres, que j'ai jamais vraiment réussi à dire entrepreneur. Tu vois, je disais indépendant. Tu vois, mais c'est vrai.
Mais les indépendants sont des entrepreneurs.
C'est ça. Donc, mais c'est, voilà. Comment est-ce que je vois le business model dans tout ? Il y en a. Enfin, il y en a. On ne fait pas d'activité, etc., sans qu'il y ait un business model. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des activités où j'attends pas qu'elles soient rémunératrices. J'attends de certaines activités qu'elles m'apprennent des choses et que j'aille plus vite que la norme sur certains sujets parce que je vais être dans les bonnes équipes au bon moment, même si tu négocies pas ce que tu fais, tes heures, etc. Et à d'autres moments, par contre, complètement dans de la rentabilité et dans j'investis un, je repars avec trois, quoi. En fait, ça dépend beaucoup. YouTube, par exemple, c'est une activité qui est... À la fois, tu peux chiffrer ça, tu te dis à la fin de l'année, ok, super, j'ai dépensé tant, on a fait tant de partenariats, on a fait tant d'audience, on a fait tant de publicité classique, ça rapporte tant et tout, c'est super. Mais de l'autre côté, tu sais que si t'arrêtes YouTube, t'as toute une partie de ton image au global qui s'arrête. Et du coup, tu n'auras plus du tout les mêmes opportunités ou les mêmes idées ou les mêmes rencontres, parce que combien de rencontres je fais grâce à YouTube qui se déclinent indirectement dans tous les autres business ou toutes les autres passions à côté. Donc je pense qu'il faut... ne jamais oublier que tu fais certaines choses avec plus de plaisir que juste d'envie de faire du business, etc. Que t'en fais d'autres en te faisant plus chier, même si t'es pas du tout rentable et tout ça. Mais en fait, à la fin, ça fait un super paquet de cadeaux de Noël qui fait que t'es un mec cool à qui on a envie de parler parce que t'as plein de trucs à raconter et qu'on sait que t'es pas que là pour la thune, que là pour glander, que là pour apprendre. C'est un tout. Quand tu peux aider, tu aides. Quand tu sais recevoir un moment, tu vas recevoir aussi et tu sais où est-ce que tu veux aller, comment tu vas y aller, etc. Mais je pense que c'est ça qui est beau dans l'entrepreneuriat.
Ouais. Au sein d'Influx, tu avais créé un podcast en 2019, au départ où tu étais tout seul. Et ensuite, très progressivement, il y a eu Léo, Manuel, etc.
Ce podcast, ouais, c'est le podcast de Manuel, Léo et moi. au début, en fait, je croyais trop au podcast parce qu'on commençait à m'en parler et tout... en me disant « Ouais, pourquoi pas ?» Et encore une fois, avec cette règle de dans les demi-heures, j'ai pris vraiment mon iPhone, j'ai enregistré un sujet sur un produit tech dont je voulais parler, je l'ai publié en mode podcast, j'ai fait un tweet en mode « Ah, premier podcast !» Et bah voilà, c'est un podcast, vous appelez ça comme vous voulez, allez vous faire foutre, moi j'ai fait, on m'a dit faire podcast, j'ai fait podcast. Tu vois, tu réfléchis pas plus. Après, il y en a un qui vient ce matin, un book qui dit « Ah mais c'est quoi ton podcast, on pourrait pas faire un truc ensemble ?» Et hop, et ça démarre. Mais en fait, si j'avais attendu que ça soit parfait, on n'aurait jamais fait non plus de podcast take out, tu vois. Donc non, c'est trop cool. Et ce podcast-là, je pense que c'est notre moment à nous.
Take out, ouais. C'est devenu, je trouve, une sorte de potion magique secrète qui fait que quand vous êtes réunis à trois, ça crée quelque chose de très sympa et de un petit côté magique. C'est pour ça que je dis potion magique, tu vois. Parce que vous avez trois personnalités très différentes et en même temps très complémentaires, ce qui fait que vous bossez ensemble aussi dans la vie de tous les jours. Mais du coup, en termes de contenu même, vous avez la capacité de traiter n'importe quel sujet de manière très cool, finalement.
Bon, n'importe lequel, je sais pas, mais merci. Putain, c'est cool, merci beaucoup. Ouais, on se prend pas trop la tête. On raconte quelques conneries, etc. Mais ce qui est un peu magique avec ce podcast, c'est ce que je te disais en rigolant au tout début, c'est en fait, on sait le faire parce qu'on travaille tout autour. Et le travail tout autour et tout ce qu'on apprend autour... nous permet à chaque fois de faire des épisodes différents, racontant des choses différentes. Et en fait, t'as la communauté qui vraiment évolue avec nous. Moi, t'écoutes les premiers podcasts par rapport à maintenant. Déjà, les premiers podcasts, j'étais en mode « Le meilleur film, c'est Loup de Wall Street, machin et tout. » Il y a des moments où tu grandis, tu fais « Bon, on va peut-être pas commencer à continuer de publiciter un enculé. » Tu vois, à un moment, c'est génial, Jordan Belfort, tout ce que tu veux, mes couilles, mais bon, il a pas fait des trucs que géniaux, tu vois. Donc, il y a peut-être d'autres films plus intéressants, etc. Donc, t'évolues, en fait, tu grandis. Et c'est, je pense que ce qui est cool, c'est que du coup, tu retrouves vraiment la sagesse du côté de Manuel. Tout le contenu vraiment artistique et la patte artistique et le « mes contenus sont les meilleurs, le reste ferme ta gueule chez Léo et c'est ce qu'on adore ». Et je pense le côté un peu plus taré, explosif chez moi, quoi. Et ça matche bien.
Et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est on grandit en même temps que ses contenus.
Ah oui,
et ça, du coup, c'est complètement, je suis complètement aligné avec ça. C'est-à-dire que les influences, les inspirations que tu avais il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre ans, ne sont pas les mêmes que celles que tu as aujourd'hui, tu vois.
Mais moi, on l'a suivi sur la chaîne YouTube. Hein. Au début, je faisais de la tech, machin, tu t'en tiens à ça. Tu commences à voir le pouvoir d'achat augmenter un peu, tu crées ta société, ça commence à bien marcher. Tu dépenses un peu plus de thunes, tu fais des vidéos sur des produits un peu plus waouh et tout, la communauté commence à dire t'es gentil, mais nous on s'en branle en fait de ces produits-là, etc. Tu passes le permis de conduire, ah bah là tu veux parler que de voiture, vroom vroom, tu fais vidéo de 911, vidéo de Lamborghini, Tesla, machin et tout. La communauté te dit hello, bonjour, on est toujours là, on s'en bat toujours les couilles en fait, ça n'a rien à voir avec la chaîne du début, etc. Et après tu retrouves un peu le côté sagesse où tu dis attends, moi j'ai un média YouTube, ok, je fais de la tech, on revient à la tech. Donc en fait tu vois vraiment pour le coup l'évolution d'un ado à un jeune adulte et à un adulte ensuite.
Super intéressant. C'est quoi un peu tes objectifs futurs en termes de création de contenu, d'entrepreneuriat avec Influx? Enfin, tu vois, potentiellement, là, il y a 10 ans qui se sont écoulés. C'est quoi les 10 prochaines années, tu vois?
Oh, j'en sais rien.
Dans tes objectifs, tu vois. Est-ce que tu en as des objectifs?
Oui, ça serait difficile de dire que tu n'en as pas, mais... Ce dont je rêve le plus, je pense que en créant tout ça et la valeur associée, c'est de devenir de plus en plus le maître du temps en vieillissant. L'argent ne t'achète rien d'autre que du temps. Au début, tu penses que l'argent t'achète tout ce que tu veux, etc. C'est vrai sur papier, mais tu découvres qu'en achetant toutes les conneries du monde, tu ne seras pas plus heureux, en fait. C'est très éphémère, c'est comme TikTok. Tu swipe, t'es content. Celui qui te TikTok, t'es dépressif. Et c'est exactement la même chose dans la vie. C'est aller faire les boutiques et tout. Faire la boutique, c'est rigolo deux secondes. Acheter le truc, c'est marrant. Donc, je pense que l'argent t'achète du temps. Et ce que je veux le plus pour mes équipes et pour moi, c'est d'essayer d'avoir le plus de temps possible pour parfois faire naître des projets qu'on ne veut pas faire naître parce qu'on sait que la façon dont on a envie de le faire, il faudrait qu'on s'achète 6 mois, 1 an. Et tu peux pas. Tu ne veux pas, dans une boîte qui va aussi vite, etc., te dire « Ah, les gars, je reviens dans 6 mois. » Tu vois, c'est très compliqué. Donc, je pense que j'ai un enjeu qui est de plus en plus présent, c'est de me dire « Ok, c'est quoi le hack de la vie pour vraiment avoir du temps sur des projets qu'on a envie de mener, etc., différents voyages et tout ça ?» Maintenant, des objectifs perso très gamins, j'en ai. Visiter une Gigafactory Tesla. Tu vois, ça c'est trop cool. J'aimerais trop voir un décollage un jour SpaceX. Tu vois, des trucs un peu comme ça.
20 minutes avec Elon?
Pas forcément.
Non.
En fait, ça me ferait kiffer. Mais je pense pas être prêt. Je pense que t'as quand même des pointures qui font que tu dois être prêt pour parler à certaines personnes, etc. Tu vois, mais les rencontrer carrément. Juste être assis à une table de réunion sans rien dire, mais avec Elon Musk au bout de la salle, tu sais qui fait yeah, ok, next one please, okay. Ça, moi ça m'est life goal de... moi j'ai pas besoin de lui parler, juste mets-moi au bout de la pièce à observer un fou furieux pareil et je suis content, tu vois, je me dis wow, ok, je sais pourquoi je veux pas être lui. Mais je pense que dans les rencontres ça serait plutôt de grandes personnes dans l'ombre. Je pense à Toto Wolff. Toto Wolff, c'est le manager de l'équipe Mercedes en Formule 1. C'est celui qui a participé à la détection de Lewis Hamilton et qui est à la fois un entrepreneur mais complètement taré dans l'immobilier, etc.
un manager chez Mercedes complètement fou furieux, un actionnaire complètement fou furieux et un directeur sportif incroyable avec Lewis Hamilton. Donc ce truc-là, moi j'aime bien commencer à regarder les gens qui sont dans l'ombre. Tu te dis, putain, si on parle autant de lui, il y a qui derrière en fait ? Ça c'est cool, je trouve, tu vois.
Ouais, les cerveaux un peu derrière les...
Donc on va dire que l'objectif de vie, avec un ego surdimensionné, ça serait un jour d'avoir assez appris pour devenir l'un des cerveaux de l'ombre de quelqu'un. ça serait cool.
Okay.
Mais je pense que la lumière, c'est sympa, c'est marrant, mais tu vois, ça m'a jamais attiré. Sinon, j'aurais fait beaucoup plus rapidement des contenus entertainment, des contenus plus grand public et tout ça. Donc je pense que je suis quand même destiné à faire... Moi, ce qui m'éclate, c'est être sur Twitch. T'es à 500 personnes, tu vas sur James Edition pour regarder comment acheter des îles privées parce que c'est complètement rigolo et complètement débile et tu parles juste, tu vois, d'entrepreneuriat, de différents sujets, de techno, etc. Et t'as des gens qui te suivent et en fait c'est que 500 personnes, mais ça te fait 10 fois plus kiffer que de faire des vidéos qui font 5 millions de vues et pas pouvoir aller t'acheter un Subway en bas de la rue parce que t'es trop connu et que t'as des gamins de 12 ans qui viennent te demander des selfies. Mmh. Moi ça m'a plus animé. Je l'ai fait un tout petit temps. Quand j'ai eu la chance de démarrer YouTube avec Amixem, je veux pas en oublier, Amixem, Vodka, Pierre Cross, Super Connard, on avait fait tout plein de vidéos ensemble, mais pendant 2-3 mois, je pouvais plus prendre le métro, je pouvais plus rien faire, tu vois, quand je venais sur Paris, etc. Et je me suis toujours dit, putain, ça c'est pas pour moi, ça je veux plus, quoi. Donc je pense que le vrai objectif de vie, désolé, c'était un peu long, mais c'est ça, ça serait
c'est une bonne réponse,
d'être le cerveau dans l'ombre de quelqu'un, ça serait trop cool. De me dire, putain, t'en as tellement chié que tu peux aider quelqu'un à moins en chier. Ça serait cool. Et si je peux en aider plusieurs au sein d'une structure comme Influx, trop bien.
On va pouvoir passer à la partie bilan de cette aventure. Peut-être des questions que tu as déjà préparées, du coup. Surprise. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans cette aventure ?
L'abnégation. On se rend pas compte que la récurrence, c'est le plus difficile à faire. C'est ce qui fait que t'en chiales quand tu rentres tous les soirs à 22h et que t'as la douche qui te coule dessus et que tu te dis mais qu'est-ce que je fous là quoi. Tu sors des trucs parfois on te critique, tu sors rien, de toute façon on t'oublie. Tu réponds pas, on s'en fout, on se substitue à toi, on va voir ailleurs. Qu'est-ce que je fous, pourquoi je continue à faire ça? Donc je pense que l'abnégation c'est la qualité requise la plus compliquée. Les gens, ils arrivent à imaginer... 1 mois, 6 mois, 1 an, allez, j'en chie pendant 1 an. Après, 3 ans, ça commence à être un peu dur. 5 ans, c'est long. Tu profites un peu au milieu, hein. Il y a des trucs cool, hein. Je dis pas que tu vis une vie de merde, mais comparé à d'autres, à chaque fois qu'on te propose des trucs, à chaque fois qu'on te propose des vacances et tout, dire ah, ça serait avec plaisir, mais je suis occupé alors que tu fous rien. Et c'est juste que tu sais que ton temps tout seul chez toi, il est plus rentable que d'être avec les autres pour du paraître et c'est tout. Faire tout ça sans savoir si ça marchera, sans savoir si un jour ça pètera, sans savoir si un jour tu seras plus satisfait en ayant fait ça, ou si tu chialeras toutes les larmes de ton corps parce que tu te diras j'ai perdu ma vie quoi, j'ai perdu à essayer d'atteindre quelque chose qui finalement m'excite pas. Je pense que c'est ça le plus dur.
Ouais, c'est une vision intéressante. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent avant d'avoir essayé, tu vois. Et je pense que dans tous les cas il faut essayer pour à minima avoir, tu vois, vécu cette aventure et potentiellement avoir ou pas les résultats, mais à minima avoir vécu cette aventure, tu vois.
Mais il faut du temps. Il faut du temps pour que ça fonctionne. Déjà, pour naître, il te faut 9 mois. Avant de naître, il te faut... je me gourre pas. Hein.
Oui, non,
tu me fais des yeux, j'ai l'impression de me dire « Putain, en fait, je me suis gouré d'un mois, je passe
en fait,
pour
c'est 12 mois.
Ah, le trou du cul du monde.
Ils ont fait un article.
Déjà, pour naître, il te faut 9 mois. Si t'en es au point de te dire que tu vas faire exploser ta boîte, etc., en 1 an, bah arrête tout maintenant. Je veux dire, t'as des trucs à un moment donné dans la vie qui prennent du temps. Et on est les premiers à le dire à des créateurs qui viennent nous voir et qui nous disent « Ouais, moi j'ai 6 mois pour tout péter. » Bah super, va ailleurs. Tu veux qu'on t'aime, tu veux qu'on apprenne à te connaître, tu veux qu'on te voit, tu veux qu'on te développe, tu veux qu'on parle de toi au marché, tu veux qu'on imagine des idées, tu veux qu'on te pousse, tu veux qu'on réitère des idées, que tu testes, que tu fasses du test and learn, tu veux des notes créatives, tu veux... Et tu veux tout ça, mais c'est en fait, on n'est pas magicien. Non, aujourd'hui, un bon créateur qui est déjà installé, quand il arrive déjà dans une agence pour être représenté par un agent, la moyenne, c'est 1 an, 1 an et demi.
Et encore, un an et demi, c'est rapide, tu vois.
Il faut partir du principe que tu peux ne rien gagner du tout pendant 6 mois, 1 an. Et moi, ça fait partie des questions un peu hardcore que je pose quand il y a des créateurs qui nous rencontrent et qui nous disent « Ah, j'aimerais bien, tu sais. » Je dis « T'as de la trésorerie ? Tu vas laisser le temps aux équipes de te développer ou tu vas nous casser les couilles tous les 2 matins pour accepter des open merde qui vont pas du tout à ta ligne édito, qui seront pas en accord et qui feront que de toute façon, on ramera de fou avec toi parce que on pourra rien faire, on pourra pas te développer. » Et la première question qu'on me pose, c'est « Ouais, mais toi, comment t'as fait ?» Ben, j'ai dit non à tout pendant 5 ans. Le premier partenariat YouTube, il est arrivé après 5 ans de YouTube. J'ai dit non à tout. J'avais des super propositions, mais j'en avais pas assez pour faire le choix. Aujourd'hui, j'ouvre ma boîte mail, je choisis. Fais ce que tu veux. Mais tu feras de toute façon. Parce que tu as eu le temps de pouvoir installer une marque et de pouvoir installer une image. Et ça, c'est le plus compliqué à expliquer aux gens. Il y a des choses qui peuvent s'apprendre vite, etc. Mais la méthode, la technique, il faut du temps. Et c'est le mec impatient qui te dit ça. Je supporte pas les choses qui se font au bout de 24 heures. Moi, c'est dans l'heure, etc. Donc,
et je sais que le temps te stresse aussi, tu vois.
Ah, c'est un enfer. J'ai beaucoup, beaucoup de mal pour décrocher. Tu vois, moi, effectivement.
C'est aussi quelque chose qui me stresse, tu vois. Je visualise un peu les mois et les années comme des paliers, tu vois. Et passer ce palier, c'est encore plus stressant, tu vois. Et du coup, lors d'un épisode, c'était en 2019 ou en 2020, je ne sais plus, avec quelqu'un qui s'appelle Jean de la Roche-Brochard, qui est la personne qui gère le fonds d'investissement de Xavier Niel, qui du coup gère des milliers de dossiers tous les mois. Et du coup, à un moment donné, à la fin de l'épisode, je lui dis « Mais comment on fait pour optimiser son temps, tu vois ?» Et le mec, il me regarde, il se marre, il me dit « Mais quand t'es jeune comme ça, etc., ne cherche pas à optimiser ton temps, mais plutôt à optimiser tes actions, tu vois ?» Et le mec m'a sorti 2-3 punchs après cette phrase, tu vois. Mais ça n'a pas encore résolu mon problème. Tout ça pour te dire que le stress, c'est encore un facteur. Le temps, c'est encore un facteur de stress. Mais j'arrive quand même à prendre du recul là-dessus, tu vois, un peu plus. Donc, je pense que c'est un chemin de vie, tu vois.
Du perso ou du pro, soit tu remets en question tes choix de vie, soit tu remets en question tes achats, ton niveau de vie. Mais ce que tu remarques le plus de toute façon avec les gens qui arrivent à créer le plus de valeur, ce sont ceux qui sont le plus joueurs dans ce qu'ils risquent au quotidien pour optimiser leur temps et leurs actions. Effectivement, et c'est difficile, je te donne un exemple très très con. Et je sais que c'est presque un peu insolent. Quand je suis arrivé sur Paris, je ne gagnais pas beaucoup ma vie et tout ça, mais je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si pendant un mois, tu ne prends pas du tout le métro ? Je n'avais pas le permis, hein. Tu prends que des Uber. À l'époque, c'était Uber. Je me suis dit, OK, combien ça te coûte, etc. Je calculais 25-30 euros par jour. Je me suis dit, mais c'est un investissement, mec. T'es un malade de faire ça et tout. OK, tu sors plus. T'achètes pas de vêtements, machin. Tu bouffes des coquillettes et du jambon et tout. Et ça ira bien, machin et tout. Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, en fait, tu fais autant d'événements et tout qu'avant. Sauf que quand ton téléphone sonne, t'es toujours dans des super conditions pour répondre. Et en 2 semaines, j'avais rentabilisé en x3 le nombre de Uber que je prenais par jour parce que toutes les sollicitations qu'on pouvait recevoir, je savais les traiter. Je les mettais jamais à plus tard. Je disais jamais, je suis dans le métro, je te rappelle. Ah, je suis dans le métro, on peut se rappeler demain. Et puis tu te rajoutes des trucs. Tout ce que je pouvais faire maintenant, je le faisais tout de suite, puisque j'étais déjà disponible pour le faire. Donc c'est pour faire ça, il faut pouvoir créer de la valeur, avoir sa société et tout ça. Si tu peux pas dire ça à un employé, il va te dire, bah t'es bien gentil, connard, mais moi je vais pas m'acheter des Uber pour faire plaisir à mon patron. Évidemment que ça correspond à certains choix de vie. Et encore une fois, je parle là dans une industrie où je suis super chanceux d'être dans une industrie qui est le numérique. Donc, toutes les industries ne sont pas pareilles, tu vois. Mais par exemple, ce genre de choix-là, ça va à l'encontre de ce qu'on te dit. On te dit, ah bah, ton premier salaire, tu vas te faire plaisir, t'achètes ton premier sac, t'achètes tes premières belles chaussures, tu peux sortir, tu peux machin. Et ben, moins tu fais ça, plus tu tiens longtemps. Enfin, le secret de toute façon, c'est pour optimiser son temps, etc., c'est de ne jamais changer son niveau de vie. Jamais. T'essaies jamais de... Parce que sinon, tu cours dans une roue de hamster, mais en or. Alors, elle est géniale, elle est en or massif. Mais bon, vu que tu dépenses 30 000 euros par mois, il faut que t'en gagnes 100 000. Bon, bah en fait, tu fais la même chose. Tu gagnes 3 000, tu vas dépenser 3 000, tu gagnes 10 000. Et tu profites 10 fois plus du temps que t'as ailleurs et tu peux faire 10 fois plus de choses. Donc, en fait, ça sert à rien de vouloir gagner plus si ton niveau de vie change à chaque fois. C'est déjà peine perdue d'avance. Donc, je pense qu'il faut vraiment rester humble. Et je pense que le temps, c'est quelque chose qui doit être beaucoup respecté. Je me suis fait la réflexion tout à l'heure, je reçois un email d'une personne que j'aime bien en plus et qui me dit « Ah, viens, à mon bureau, on pourrait échanger, etc., etc. Je commence à répondre et dans ma tête, je me dis, putain, quand est-ce que je vais pouvoir et tout, dans les deux prochaines semaines, c'est chaud, je peux pas y aller et tout, j'ose pas lui dire non et tout et tout. Et tu sais, le côté très pragmatique qui revient et qui dit, attends, c'est un très gros client, il y a quelqu'un qui, non, pas encore, ok, bon, tu l'as rencontré quand? Bah, j'ai revu il y a deux semaines, je l'aimais bien avant, machin et tout, mais bon, ben voilà, tu mets un call de 30 minutes en place et tu lui dis gentiment et tout va bien se passer. Et ben, je viens d'économiser 4 heures d'une journée. Donc les gens aussi qui te disent toutes les deux secondes, j'ai pas le temps, j'ai pas le machin et tout, bah c'est juste que tu sais pas dire non. Et ça, c'est l'une des facultés qu'il faut développer le plus vite possible. Parce que le temps, ça se respecte. Et moi, je préfère passer une heure par jour tranquille avec ma Kindle, à fumer un cigare, pas stresser et dire aux autres que je suis toujours très occupé, y a pas de problème, plutôt que l'inverse. Parce que tu sais que ton seul enjeu, si tu aimes autant la notion de temps, c'est de durer le plus longtemps possible. Et si tu as cette notion-là et qu'elle est mauvaise et que tu te dis « Ah, tous les jours, il faut que j'en fasse de plus en plus », eh ben je les ai vus très vite autour de moi. À 45-50 ans, tu n'as plus d'ongles, tu es rongé jusqu'à l'os, tu stresses, tu as développé des maladies au cœur. C'est un enfer, quoi. Donc en fait, l'enjeu, c'est plus de dire comment je vais durer le plus longtemps possible dans une industrie qui me plaît versus comment je vais faire pour faire le plus de choses possible. Et aujourd'hui, on est dans une génération qui veut faire le plus de choses possible. T'as une sollicitation WhatsApp, tu te dis ah bah ouais, je vais aller à la soirée de 18 à 19, après tu vois un TikTok, tu fais ah putain j'aimerais trop tester ce resto de 19 à 20h30, tu es avec une autre personne, t'es un resto, après, ah, non j'ai un after à 21h de 22h. Et moi je vois des jeunes parfois, tu te dis ils font 5 soirées dans la soirée, ils profitent de rien. Ah ils ont fait 5 soirées hein, sur Instagram, c'est incroyable. Si t'es payé pour, ça me dérange pas. Va mettre en avant 5 soirées différentes, c'est ton métier, etc. Tu travailles dans l'événementiel, c'est génial. Mais tu te dis putain c'est inquiétant. Il y a aucun moment où ils ont pris le temps. Et c'est très dur à faire. Moi, j'ai encore du mal à le faire. Hein. Vraiment, je comprends cette notion-là, mais j'ai beaucoup, beaucoup de mal.
Ouais, je pense que c'est un chemin de vie, tu vois. C'est...
Ah ouais, tu l'apprends au fur et à mesure. En fait, mais ça sert presque à rien de le dire, parce que de toute façon, c'est en testant, encore une fois, que tu vas apprendre. Quand tu vas être à des dîners qui vont durer 5 heures, tu te feras chier comme pas possible. Le lendemain matin, tu vas vouloir te réveiller à 6 heures pour un truc qui te passionne, qui te fait kiffer. Et en fait, ce truc-là, tu le feras moins bien. Parce que la veille, pour faire comme monsieur, madame, tout le monde, t'as accepté les 4 coupes de champagne qu'on t'a offert, etc. En fait, c'est un enfer. Tu fais plus rien dans ta vie, quoi, à la fin de la fin. Donc, moi, je suis plus partisan pour passer pour un connard, mais garder de ton temps et dire non à beaucoup de choses, mais tu sais pourquoi tu réussis d'autres choses, plutôt que de dire oui à tout et d'avoir l'impression de rien faire à la fin de la fin, quoi.
Ma deuxième question bilan, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui ?
De la négation que j'ai réussi à avoir. Non, mais tu vois, j'essaie souvent maintenant, tu vois, surtout avec l'âge, machin, t'évolues, tu te dis, vas-y, il faut que je reste humble et tout. Mais non, il y a des trucs où je suis désolé. Je suis fier, putain. T'arrives dans un bâtiment où on nous fait confiance aujourd'hui. Il fait 6 étages. T'as un truc de fou furieux pour créer, etc. T'as plus d'une vingtaine de créateurs qui est représenté. Tu lances des médias comme Legend avec Guillaume Play. Tu lances des médias dans la mode avec Freshman. Et, tu fais des trucs quand même où tu te dis, putain, c'est cool. Je suis content. Je préfère ça plutôt qu'à 26 piges, être encore tout seul chez moi. Peut-être gagner 10 fois mieux ma vie. Hein. Je ferais 10 milliards de partenariats. J'aurais toujours fait des vidéos tech dans le grand public et tout. Mais putain, j'aurais rien appris, quoi. J'aurais peut-être pas aimé la lecture, j'aurais pas aimé le côté travailler à plusieurs, j'aurais jamais su ce que c'était que de manager, j'aurais... C'est trop cool. En fait, ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir pris des risques sans avoir le résultat en face, de garantie. Mais ce qui est sûr, c'est que si demain je redémarre à zéro quelque chose, j'irai beaucoup plus vite que la moyenne pour faire certains trucs.
Ce qui est
parce
normal.
Que du coup, j'ai appris à ne pas gagner maintenant tout de suite peut-être, ou à pas faire les choses avec le chemin le plus droit possible. Mais du coup, en faisant des détours, t'apprends 10 fois plus, quoi.
Et puis t'as 10 ans d'XP maintenant.
Ouais.
Donc, tu vois.
Ouais, carrément. Dans un domaine, en tout cas, tu vois. Là, je commence à toucher du doigt un peu le côté plus vraiment commercial, vente dans le numérique, etc. Donc, ça a déclenché des lectures un peu spécifiques. Ça a déclenché, mais quand j'aurai du coup 10 ans de création vidéo plus 10 ans de création vidéo et en plus de ça. Aujourd'hui, c'est comme si je faisais une école de commerce version ultra accélérée, quoi. Mon école de commerce, elle a duré 6 mois. Mais bon, c'était matin, midi, soir, nuit, quoi, tu vois.
Ouais.
Donc, ça, c'est cool.
Ma dernière question bilan, c'est comment est-ce que tu as vu l'évolution de YouTube depuis 10 ans et toutes ces nouvelles générations de YouTubeurs, tu vois, de créateurs de contenu. Comment est-ce que tu vois ça?
C'est génial.
Parce que maintenant, on a des pros de niveau télé, voire plus.
Aujourd'hui, tu peux, en fait... Ce qui est fou, c'est que tout a évolué Et pourtant, le meilleur moyen aujourd'hui de péter, c'est juste de prendre son téléphone et de raconter des putains d'histoires et de savoir comment les raconter, etc. Mais le storytelling prime toujours. Donc, ce qui est rigolo, c'est de se dire que en 10 ans, toute la technique a évolué, mais le truc qui va faire que ça sera un game changer n'a jamais évolué, c'est ce que tu vas raconter. C'est ce que tu vas présenter, c'est ce que tu vas raconter. T'as beau avoir des prods incroyables, bah on l'a vu encore récemment, hein, je vais pas les citer, mais t'as des films incroyables, t'as des prods incroyables avec des millions d'euros dedans.
65 millions.
Pourtant, c'est de la merde. Donc, à la fin de la fin, je pense que ce qu'il te faut, c'est une bonne histoire. Et je pense que c'est le plus important. Et dans ce que j'ai vu dans les 10 dernières années, ce que je trouve fascinant aujourd'hui, c'est l'accessibilité. Ce qui est génial, en fait, c'est que ça te permet à plein de jeunes de se découvrir des passions et d'avoir accès aussi à plein d'autres exemples. Parfois un peu trop, tu vois, TikTok, pour moi, c'est l'extrême. Mais ne serait-ce qu'aujourd'hui, un Netflix, les prods Netflix, elles sont complètement incroyables. Enfin, tu vois des trucs de fou furieux arriver et tu te dis, mais attends, c'est pas des médias comme la télé, c'est pas, tu vois, c'est complètement différent, quoi. Tu vois, c'est une boîte. Et ça, moi, ça m'a fasciné. Je pense que c'est ça qui est le plus incroyable, c'est l'accessibilité aujourd'hui. Et pour autant, plus ça a été accessible, plus ça a été difficile. Ouais. Parce que forcément, plus c'est accessible, plus il y a de monde, plus il y a de concurrence.
Bien sûr, ouais.
Okay. Et nous, les premiers impactés, hein. S'il y avait toujours 5 chaînes tech comme quand j'ai commencé, t'inquiète pas que sur les setups, je ferais encore 300 000 vues comme à l'époque. Tu vois, c'est un fait aussi, tu vois, c'est normal. Aujourd'hui, quand tu vois, je voyais la dernière fois chez un pote ma vidéo au milieu de son flux, j'ai fait, mais en fait, c'est normal, mec, c'est impossible que j'attire les gens avec ça. C'est la même série, c'est les mêmes trucs et tout, donc j'attire les gens fidèles qui kiffent. Mais c'est super dur de se faire découvrir en fait aujourd'hui. Et là, tu fais un short où tu dis pas bonjour, pas merde, ni quoi que ce soit.
Un million.
Un million de vues, bah, voilà, ce mois-ci, un million de vues, 300 abonnés, machin, etc. Donc tu te dis, bon, tu sais toujours faire des vues, mais c'est compliqué de le faire sur des contenus longs,
ouais, bien
et
sûr.
Intéressants, quoi.
Mmh, ok. On va pouvoir passer à la partie rencontre, influence et entrepreneuriat. Il y a quelques petites questions intéressantes. Ouais. Est-ce que tu veux me parler d'une rencontre en particulier qui a marqué ton aventure ?
Écoute, celle que tout le monde connaît et qui pour moi est la primordiale, c'est Emmanuel Diaz. Ça a été à la fois, et ça l'est toujours, un super mentor, c'est devenu un super ami. Et c'est la première fois que je réalisais qu'en fait, quand tu es avec quelqu'un, c'est pas pour avoir deux fois moins. C'est pour aller deux fois plus loin, deux fois plus vite et avoir deux fois plus. Et c'est pas souvent comme ça parfois que les anciennes générations peuvent te le dire. Tu vois, en mode, ah non, t'associes pas, fais ton truc dans ton coin tout seul, t'as besoin de personne et tout. C'est faux. Fais-le le plus vite possible avec des gens compétents autour de toi, etc. Parce que de toute façon, si t'es à la fin meilleur qu'eux, bah, tu feras autre chose tout seul. C'est pas, ça changera pas la finalité, mais entre temps, t'auras peut-être appris et peut-être qu'il y a des histoires qui pourront naître et c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Non, je pense que Manuel, c'était vraiment une rencontre incroyable pour ça. Ça m'a ouvert les yeux sur ce qu'était le travail, quoi. Tu vois ? Et le travail comme j'avais vraiment envie de le faire. Pour la première fois, je me suis dit, putain, je passe pas pour un fou quand je parle. Au contraire, je passe pour un mec bof. Non, mais c'est vrai, tu vois, t'as des premières... tous les premiers trucs qu'on a fait ensemble, je recevais des mails à 5h du mat en me disant... Pardon, mais l'update là-dessus, elle est où ? On a un call demain. Tu te réveilles, tu te dis, attends, demain, c'est quand ? Parce qu'on est à 5h du mat, c'est normal, c'est pas... Ouais, c'est normal, ça peut juste le taf à deux, quoi. Enfin, moi, je suis pas employé ni rien. À tout moment, tu vois, j'aurais pu dire, va te faire foutre, j'en ai rien à foutre. Tu vois, moi, j'avais ma vie tranquille de mon côté, tu vois. Mais j'avais toujours envie de faire plus et je trouvais pas le duo avec qui je pouvais vraiment faire plus et mieux. Mmh. Voilà.
Ok. Donc, ça a permis vraiment de confronter deux visions.
Ouais.
Ah,
de fou.
Et de les élever aussi bien pour toi que pour Manuel aussi sur
peut-être,
différents sujets, tu vois.
Peut-être. Mais carrément, je pense que non, ça, cette rencontre, c'est la plus marquante.
Est-ce que tu peux me citer ton top 3 d'invités que tu rêves d'avoir dans ton format 20 minutes avec ? Cette shortlist.
Ouais, bon, il y a Toto Wolff,
ouais,
que j'aimerais beaucoup avoir et que j'ai cité. Alors bon, y en a un qui me fascine. Je ne sais pas s'il faut faire un 20 minutes avec ou pas, mais surtout son point de vue sur les technologies est pas du tout en adéquation avec ce que je fais. Ça serait Fabrice Lucchini.
Ah, nice.
Je me dis,
tu pourras pas faire 20 minutes.
Ça, je sais. Ça sera 20 minutes, mais avec le parenthèse
sur 3 jours.
120 minutes. Avec, et je pense que ce sera le titre. 120 minutes avec Fabrice Luchini. Plutôt que 20 minutes. Mais ça, j'aimerais bien. Je suis vraiment fasciné. Je comprends pas tout ce qu'il dit, mais je suis fasciné par le personnage et par ce qu'il fait. Après, il y a des gens qui me fascinent et qui dégoûtent beaucoup de gens, tu vois, mais je pense. Je serais quand même curieux de je sais pas ce que je lui poserais comme question et autres, mais il y a des gens qui ont révolutionné des industries ou des groupes comme Bernard Arnault avec LVMH, où tu te dis, bon, il y a eu des catastrophes économiques pour que de l'autre côté, il y ait des réussites, mais exceptionnelles. C'est des trucs où, tu vois, quand j'en parle par exemple à Manuel, il me dit, oh, s'en fout, non, ça t'intéressera pas, machin, ça n'a aucun rapport, machin et tout. Genre, en mode, bon, de toute façon, tu pourras t'asseoir à côté de lui, tu comprendras pas un mot de ce qu'il te dit, sûrement, mais ça me fascine, tu vois, ça, ce côté-là me fascine beaucoup. Ouais, je pense que ça pourrait être le top 3.
Ok, c'est noté. On leur enverra des messages.
Après, ça évolue avec le temps, c'est ça qui est un peu magique, tu vois. C'est ouais, qu'au fur et à mesure des contenus et tout que tu consommes, tu te dis putain, en fait, ça serait trop bien de rencontrer cette personne, etc. Et voilà.
C'est la même chose avec le podcast, hein, tu vois. Les gens potentiellement que j'avais envie d'avoir dans le podcast il y a 3-4 ans sont pas les mêmes que j'ai envie d'avoir aujourd'hui, tu vois. Donc ça évolue.
Ça m'étonne pas. Mais c'est t'as cool. Un top 3, toi ? Tu l'as
déjà
partagé ou pas à la communauté ?
Je l'ai pas partagé, mais on va dire que j'ai un top 1, tu vois, mais qui serait Mouloud Achour.
Ok, j'en
mets. Côté entrepreneur média, boss des interviews.
Exceptionnel.
Profil très peu interviewé, parce que le mec décline toutes les interviews, je pense. Est extrêmement rare en interview. Donc, tu vois, il y a ce côté un peu exclusif. Peut-être un jour, on verra.
Je te le souhaite. Ce serait trop bien.
C'est ma petite case à cocher, tu vois. Quand elle sera cochée, ce sera pas mal. On passera à un autre goal.
Il faut.
Est-ce que tu peux me citer potentiellement trois personnes qui t'inspirent le plus aujourd'hui ? Tu vois, t'es des trois grandes sources d'inspi. Ah, tu te l'es noté. C'est les fameuses questions.
Ah oui, j'avais noté deux sources d'inspiration. L'une pour justement l'abnégation, le travail, l'effort, etc. Je pense que c'est tout l'univers automobile, notamment dans la Formule 1, les pilotes automobiles. C'est un travail, tu te dis, tu bosses un an pour une course ou plus, ou ça fait 18 ans que tu t'entraînes, que tu n'as jamais eu d'enfance, jamais eu d'adolescence, etc. Tu donnes tout pour une course, tu es exceptionnel, et à la fin, c'est un pneu qui crève, et puis tu es dernier. Et tu recommences l'année prochaine. Hein. Genre ça, pour moi, en termes de force de caractère, ça m'éclate. Et j'avais noté aussi le monde du luxe, que je connais très très peu. Mais qui m'inspire énormément pour justement comprendre en fait la désirabilité d'un produit, l'exception, la rareté. Et le monde du luxe aujourd'hui est imbattable sur le savoir du dire non. C'est exceptionnel. Tu arrives aujourd'hui dans des industries où tu dois te battre pour payer des dizaines de milliers d'euros certains produits. Ils te disent non et tu repars avec le sourire et tu dis merci. Et tu reviens une semaine après en espérant qu'ils te disent oui, etc. Et c'est une industrie qui me fascine de me dire ok, la psychologie humaine, je pense qu'il n'y a pas plus fort que eux pour la comprendre. Ils arrivent à vendre à du monsieur et madame tout le monde qui veulent appartenir à une marque avec une coque d'iPhone à 150 balles qui va tomber par terre. De l'autre côté, tu vois, aux grands-parents richissimes qui vont s'acheter des pièces uniques à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour sortir au restaurant, quoi, tu vois. Ça, moi, ça me fascine. Donc, je pense que ces deux industries-là, dans ce que je fais aujourd'hui, le côté très bourrin, sportif, etc., avec les pilotes automobiles, et le côté très simple, savoir-faire, du luxe, très artisanal, le je fais avec les mains, et peu importe le temps que tu pourras me demander, etc., t'as beau payer plus cher, ça prendra pas moins de temps. Donc, tu fermes ta gueule, tu t'assois, ça va bien se passer. Et ça, moi, je trouve ça exceptionnel, tu vois. Et quand j'arrive à une toute petite échelle, de temps en temps, tu vois, à faire des similitudes avec certaines demandes un peu farfelues, etc., dans notre industrie à nous, je me dis, putain, c'est incroyable. Si demain, un créateur arrive à être respecté comme une marque, c'est génial.
Et aux États-Unis, potentiellement, on n'a pas de créateurs, justement, qui... Enfin, potentiellement, on a déjà des gros créateurs qui sont autant respectés qu'une grosse marque.
MrBeast.
Genre, clairement, ouais.
MrBeast, aujourd'hui, c'est exceptionnel. Tu viens lui poser 20 millions d'euros sur la table, il va dire, pour faire quoi ? Oh non, ça me plaît pas. Et l'argent n'est plus rien, c'est qu'un moyen. C'est ça qui est génial. L'argent n'est plus qu'un flux. Quand tu arrives à ce niveau-là, c'est exceptionnel.
Et en France, tu vois, on a Squeezie aussi sur ce sur
ouais.
À échelle un peu moins puissante, mais quand
bien
même.
Sûr. Bien sûr, mais
incroyable,
installé, etc., ouais. Droit dans ses bottes, etc., carrément. Carrément.
On va parler maintenant d'influence et de création de contenu. Mmh. Ma question, c'est quoi pour toi la différence entre un influenceur et un créateur de contenu ? Est-ce qu'un créateur de contenu peut être un influenceur ? Est-ce qu'un influenceur peut être créateur de contenu ?
Un créateur de contenu se bat pour la création. Un influenceur se bat pour les chiffres. Et un influenceur aujourd'hui subit une industrie qui ne l'a pas préparée à ça. Aujourd'hui, un influenceur, c'est une personne qui a une forte influence malgré sa non-préparation et sa non-volonté pour l'avoir. Ce serait une vraie connerie demain qu'un mec comme Léo Duff, comme Alexis Vanden dans la mode ou comme moi te disions je m'attendais pas à être influent. En même temps, t'es sorti de ta cuisine tous les jours, t'as fait de la création de contenu, tu l'as publié. À un moment, c'est une conséquence. Je veux dire, tu ne le fais pas pour ça, mais c'est une conséquence. Un influenceur aujourd'hui, il subit son exposition sans la maîtriser, sans la vouloir et sans la créer. Et c'est très éphémère. Tu passes dans une émission de télé parce que t'avais rien à foutre cet été et qu'en même temps, c'est rigolo de prendre 5000 balles. Et puis voilà, et tu sors de la télé-réalité et puis tu te retrouves avec 500 000 abonnés avec une agence qui te dit « Oh, mais c'est génial, maintenant qu'on se connaît pour ça, on va vous vendre sur des placements de produits. » Ça s'appelle un flywheel effect. Hein. C'est ce qu'a fait Walt Disney. Hein. Il faut savoir que Bani J avec Magali Berda et Tutti Quanti, c'est le flywheel effect. C'est la ménagère vient voir la télé-réalité. C'est rigolo, elle adore la personne qui crie le plus fort au fond de la pièce. Elle se dit, il m'en faut encore, qu'est-ce que je fais ? Oh, je vais la suivre sur Instagram, je l'adore, elle me fait trop rire. Ensuite, sur Instagram, qu'est-ce qui se passe ? Parce que je veux un petit morceau d'elle quand même chez moi. Produit dérivé. Hop, je prends un produit dérivé. Et puis, quand on vient chez moi, on me dit, ah, trop rigolo ce produit, il me fait penser à machin, tu l'as acheté ou tout. Ah bah ouais, c'est ça. Ah ouais, faut trop que je regarde l'émission. Et hop, tu vas re-regarder l'émission. Puis tu vas adorer une autre candidate parce que celle que tu as regardée il y a deux semaines, elle est déjà périmée. C'est le flywheel effect de Walt Disney avec des peluches. Hein. C'est la même chose, donc c'est une catastrophe à la fois sociale, économique, tout ce que tu veux, c'est une catastrophe. Hein. C'est parce qu'en plus de ça, la plupart ne sont pas préparés à ça. T'as des exceptions. Caroline Receveur, Nabila. Exceptionnel. Bravo.
Qui sont devenus entrepreneurs.
Exceptionnel. Mais c'est des exceptions, c'est impossible, presque impossible de réussir aujourd'hui et en profiter carrément. J'ai déjà été dans des événements avec des influenceurs de télé-réalité. Ils avaient un sac à dos de produits et ils avaient des stories à faire toute la journée à 100 euros la stories payée. C'est vraiment, c'était panneau publicitaire. C'est tu ouvres ton petit sac à dos avec que des produits. Ils savent même pas ce que c'est, ils les ont jamais testés. Et moi, j'étais au milieu et je me souviens, c'est un mec en plus que j'apprécie bien en télé-réalité qui me dit « Mais toi, comment tu fais à vivre et tout ?» Ben moi, j'ai juste ce casque-là, je suis payé 4000 balles pour le faire, et puis c'est la seule OP que j'ai dans le mois. Hein, c'est... Il comprenait pas. Je dis, mais moi, j'ai choisi de faire un contenu qui soit bien vu et que je puisse vraiment aider à la fois une marque et à la fois une communauté sur l'annonce d'un produit, plutôt que d'avoir que des produits de merde que j'ai jamais testés dans un sac à dos. Quoi. Mmh. Mais en même temps, je faisais de la création de contenu. Lui, il était là pour se mettre en prestation. Tu vois, c'est la grosse différence. Nous, on se bat pour de la création. Parce qu'on part du principe que tu peux être un très bon créateur sans être un énorme influenceur. L'influence, ce n'est qu'une conséquence. J'en suis le premier exemple. Je ne suis pas un gros influenceur. T'enlèves la chaîne YouTube à 1 million d'abonnés, je ne suis pas un gros influenceur. Je suis un créateur de contenu. Passionné par la tech, la crypto, l'automobile, tu vois, et c'est tout. Mais je ne suis pas un influenceur. Et pour autant, je vis de ma création. Donc, pour moi, c'est ça la différence.
Une question un peu reliée à tout ça, avant de passer à la partie finale et les petites questions rapides de fin, avec que des questions pièges, que des choses horribles.
Vas-y, t'inquiète.
Est-ce que tu as un conseil justement pour les jeunes et moins jeunes qui se lancent sur YouTube en 2023 ?
Pars du principe que ce que t'aimes aujourd'hui, tu l'aimeras peut-être pas forcément dans deux semaines et que tu devras quand même le faire dans deux semaines. Si tu veux en faire un métier, dès lors que c'est un métier, il y a des trucs chiants à faire. Il y a des trucs que tu vas faire qui ne seront pas toujours agréables à faire. Il y a des super belles parties, mais il y a des parties aussi très casse-couilles. Et tu ne vas pas faire dans la vie que ce que tu aimes faire. Contrairement à ce que peut-être essaient de te vendre tes parents en disant non, mais toi tu feras toujours ce que t'aimes dans la vie. Non, à un moment donné, si tu veux créer de la valeur, tu te feras chier à un moment donné, c'est sûr. Et pour autant, tu devras t'accrocher. Parce que parfois, c'est la persévérance dans un domaine qui t'a plu, qui te plaît un peu moins, et le fait de redevenir encore meilleur que la dernière fois, etc., qui te ramène dans ce domaine-là. Moi, à un moment, j'ai failli décrocher de la tech, par exemple. Je me suis dit, c'est bon, j'ai testé, déballé tous les produits. Et quand je me suis dit, bah, en fait, autour de Tesla, autour de l'innovation technologique, autour des êtres humains qui travaillent dans ces industries-là, mais ça serait génial, mais c'est toujours de la technologie. Évidemment qu'on évolue là-dedans. Donc, je pense que le vrai truc à garder en tête, c'est ok, c'est génial, prends le conseil de fais ce que t'aimes, super, mais surtout, surtout, fais-le avec de la récurrence, avec de la régularité. T'as beau adorer faire du pain, si tu le fais qu'une seule fois le dimanche, il sera toujours plus dégueulasse que celui du boulanger. Toujours, même si t'adores faire du pain. Lève-toi tous les matins à 4h du mat, va faire 200 baguettes de pain par jour, tu verras que même si t'as pas la recette de folie, que t'as pas amélioré toutes les deux secondes et tout, ton pain il sera meilleur, parce que t'auras l'exécution, la récurrence et le geste parfait. Qui viendra avec la répétition. Donc le seul secret, c'est ça, c'est répète. Mais tu vas t'en... Tu vas en chialer en arrivant dans ta baignoire à 22h, mais c'est le seul moyen pour être un minimum, à un moment donné, respecté dans ce que tu fais.
Ouais, il n'y a pas de secret, hein, c'est clair. Okay. C'est pareil pour tout, en fait. Hein. Peu importe, même en dehors de la création de contenu, etc., si tu répètes pas cette action des centaines, des milliers de fois... Tu pourras jamais être bon dans cette action, en fait.
Exactement. Et on est dans une génération qui, une fois, l'a fait une fois. Mais une fois qu'on l'a bien fait une fois, on se dit, c'est bon, suivant.
C'est
bon. Non, tu l'as fait bien une fois. Tu l'as fait bien une fois avec ces critères-là. Regarde, on va augmenter les critères, on va faire ça, machin et tout. Oh putain, c'est compliqué, là. Voilà, allez. Et souvent, et j'adore cette stat-là, je sais plus d'où est-ce qu'elle part, c'est on met un mois ou trois mois pour faire 99% du taf et 10 ans pour faire les 1% restants. Et tout se joue là-dessus. Ta réussite se joue sur les 1% restants. Chaque détail compte. Donc tu feras 99% bien plusieurs choses, mais est-ce qu'il vaut mieux être médiocre en tout plutôt que excellent en un seul truc ? À toi d'en décider.
C'est une phrase qu'aurait pu sortir Manuel, ça.
Ah, peut-être. Bon, en tout cas, il y a une influence. Il y a une influence. Hein,
on va passer du coup à la dernière partie de notre échange. Il nous reste encore quelques questions avant de finir notre discussion. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux ? Tu l'attendais pas, celle-là ?
Ah non, pareil. Je passe du temps seul. Ouais.
Tu l'as un peu évoqué au début.
Ouais. Ouais. La facilité, souvent, c'est de se dire « je vais pas bien, je vais voir des gens ». Bah non, à part le fait qu'ils aillent peut-être encore moins bien après parce qu'ils auront repris ton côté négatif. Non, quand tu vas pas bien, c'est d'être seul. Chiale, c'est bon de pleurer. Il y a plein de gens qui s'en cachent et tout, qui se disent « Ah, faut pas pleurer et tout », mais c'est trop bon. Enfin, développe, sors tes émotions, fais un moment, écoute-toi, tu vois, pas besoin de l'afficher, pas besoin d'en parler ou autre, mais écoute-toi, c'est où est-ce que tu veux aller, etc. Et souvent, pour aller mieux, je prends du plaisir dans des disciplines qui sont plutôt sur la durée. Ce qui me fait du bien, par exemple, si je suis pas bien ou autre à un moment, c'est de me dire « Tiens, tu as bouffé 10% de ce livre ». C'est chiant. Tu te dis, c'est pas aussi marrant que d'aller jouer à Mario. Mais psychologiquement, tu seras beaucoup plus assouvi quand t'auras lu ces 10% et que tu diras, putain, j'ai appris plein de trucs, ça m'a donné des idées, ça m'a sorti de mon truc, j'ai imaginé les personnages, j'ai fait telle chose, etc. Ça me fait vraiment kiffer. Passer du temps seul, c'est vraiment top. Mais vraiment, passer du temps seul, va marcher, va manger tout seul. Va manger tout seul, c'est trop bien. Sors sans ton téléphone. Ça, c'est incroyable. Tu sors les mains dans les poches. Tu te dis, je dois aller d'un endroit A à un endroit B. J'ai pas de téléphone, j'ai pas Google Maps, j'ai rien. Faut que je parle aux gens, faut que je demande, faut que je découvre. Mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est trop bien. Donc non, je pense que voilà. Avec un petit verre de jus de pomme, on est bon. Non, je rigole. Faut pas que je conseille ça.
Bah, ça dépend. Si le jus de pomme est bio, c'est voilà. C'est
oui, tout. Voilà. Petit jus de pomme de Deauville. C'est super.
Exactement. Est-ce que t'as un livre à me conseiller ?
Ouais.
On parlait de livres, justement.
Attends, là j'ai noté... Ah non, putain, attends, moi j'ai noté tellement d'autres trucs, j'aurais pas dû préparer, tu vois. Il y a eu deux livres qui m'ont vraiment mindfuck le cerveau, parce qu'en même temps, il faut juste accepter dans la réalité dans laquelle on vit. T'en as un qui est très facile à lire pour tout le monde et qui est trop bien, c'est Père Riche, Père Pauvre. Trop connu, mais trop bien. Genre, t'apprends vraiment à un moment donné que bah, tu t'achèteras jamais plus de temps si tu ne fais pas travailler l'argent à ta place. Si tu continues d'aller travailler pour t'acheter du temps, bah, en fait, c'est déjà la fin. Tu n'y arriveras jamais. Donc ça, je trouve que avoir vraiment ce déclenchement-là, je l'avais, mais le fait de le lire, etc., c'était cool, tu vois, de le mettre sur des mots et de me dire, putain, je suis pas le seul, en fait, je comprends où est-ce que je veux aller, etc. Très intéressant aussi sur la façon dont fonctionne l'économie au global, Predictable Revenu.
Okay.
C'est un livre en anglais très pointu que tu vas plutôt lire en fin d'école de commerce, etc. La fameuse école de commerce accélérée en 6 mois. Mais Predictable Revenu, c'est comment est-ce que je peux prédire à chaque fois des revenus pour comprendre comment est-ce qu'une économie peut être stable. Et c'est super intéressant de comprendre comment fonctionnent en fait les plus grandes boîtes de ce monde. Toutes les plus grandes boîtes du monde qui font tourner aujourd'hui l'économie mondiale appliquent ce genre de méthode-là. Et ça, c'est deux livres qui étaient pour moi assez révélateurs, déclencheurs, tu vois. Ouais. Après, sur la patience, il y en a un qui m'a vraiment débloqué, c'est le troisième et dernier, mais vraiment débloqué le fait d'être patient, c'est... les 24 leçons pour gagner en bourse de Warren Buffett. En fait, il passe le livre à t'expliquer qu'il faut juste attendre. C'est insupportable parce qu'à un moment, tu te dis « Ok, qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce que je vends? Putain, dis-moi, tu vois, donne-moi les trucs, je vais y arriver et tout. » Tout le livre, c'est ben, Warren Buffett, la moyenne de ses achats-ventes, c'est tous les 10-15 ans. Tu fais « C'est-à-dire ?»
Pour un mec stressé par le temps, c'est chaud.
Là, tu me dis que genre, je fais plus rien pendant 15 ans et que j'attends. C'est ça que tu me dis. Et t'apprends après, tu vois, le fait de répartir aussi tes investissements sur le long terme, etc. Et ça. Mais c'est super.
Oui, tu fais
pas
rien pendant 15 ans. Tu, voilà, tu distribues.
Par exemple.
Tu distribues tes...
Mais c'est super intéressant. Donc, ce genre de livre, ouais, ça m'a... Je me suis dit, ok, peut-être que là, il faudrait que j'arrête de m'écouter moi et que j'écoute plutôt ce qui se fait depuis des décennies et qui fonctionne.
Est-ce que t'as un film ou une série à me conseiller? Il l'attendait celle-là.
série The Playlist, l'histoire de Spotify. Trop bien. Voilà, tu as monté ta boîte, regarde d'abord cette série-là. Si t'es prêt à faire ça, après, y a pas de problème, etc. Dans la même veine, film Le Fondateur sur l'histoire de McDonald's.
J'adore ce film.
Exceptionnel. Pareil, ça te prouve à quel point tu peux être passionné par un truc, mais que ça, tu vas en chier pendant des années.
Et que l'idée ne fait pas tout.
Complètement.
L'exécution est beaucoup plus importante.
Exactement. Et que parfois, il faut accepter de te faire piquer l'idée pour qu'elle soit mieux faite, quoi. Tu vois, donc il vaut mieux aller vers ceux qui veulent te piquer l'idée et essayer de rester à bord que de te dire « Non, je vais y arriver tout seul !» Tu vois, c'est aussi presque l'histoire de The Playlist en même temps de Spotify. En série aussi, t'as « Dernière danse » de Michael Jordan.
Ah oui.
Ah ça, si tu veux une petite piqûre d'adrénaline quand tu veux aller mieux, ça c'est exceptionnel. Je trouve ces scènes exceptionnelles. Les scènes où tu as Michael Jordan dans le salon en train de fumer un cigare et qui t'explique ses actions ou la façon dont il a collaboré avec Nike, etc. Tu fais waouh, incroyable. Tony Robbins sur Netflix. Le film, alors très kitsch, très gourou. On n'est pas du tout habitué à ça en France et tout. Mais ce que je veux dire, c'est si tu arrives vraiment à te dire ok, au fond de moi, je sais ce qui va pas, faut que je le change là maintenant, tout de suite. Et en fait, tu vois qu'il y a quand même du résultat instantané. Ça, c'est incroyable. Pardon, j'en ai noté plein, mais trop bien. Gaga, le docu de Lady Gaga. À quel point c'est difficile. Enfin, à quel point la vraie vie de personnalité publique est horrible, en fait, dans le fond. Et ça m'a fasciné, ce film. Je suis devenu mais amoureux du business et de la personne pour ça, pour toute la dureté et l'abnégation et autres qu'il y a dans son travail, c'est incroyable. Et The Big Short, évidemment.
Oui.
Pour comprendre la crise des subprimes
ouais.
En même temps. Voilà. Tu vois The Big Short, tu fais ok, ça marche vraiment comme ça en fait. Donc ça, c'était incroyable.
Une bonne petite liste.
Ouais.
C'est une bonne petite liste de courses qu'on notera et qu'on mettra en description. J'ai encore d'autres questions, c'est pas encore fini. C'est quoi, selon toi, le meilleur produit tech à avoir?
À avoir.
Le plus important pour toi.
On oublie le smartphone.
On oublie le smartphone, ouais.
Je pense que c'est la Kindle. Ouais. Parce que tu peux me donner n'importe quel autre produit dans les mains, etc. Si à l'autre bout, personne répond, tu te fais chier. Alors que la Kindle, tu peux être sur une île déserte avec 10 000 livres et t'es fier quand même de ce que tu fais à la fin de la journée parce que t'auras appris des choses et on est des êtres sociables qui ont envie de faire toujours mieux que la veille, etc. C'est ça qui nous anime d'abord. Donc, tout ce qui est un peu piqûre, tu vois, de dopamine, etc., ça, c'est facile, tu peux l'avoir avec les apps et tout ça. Mais ce vrai truc de oh, « j'ai fini un livre, c'est trop bien, j'en sais plein de trucs et tout », genre ça, moi, ça... Ça m'a mis mindfuck complet quand j'ai commencé à découvrir la Kindle et tout, et je me suis dit...
D'avoir tout ton historique de lecture.
Ah ouais, c'est trop bien. Tes notes. Je me fais des notes, après je les copie, j'ai l'application Kindle ouais, sur le Mac, je les transfère, je me fais des notes bare ou avec l'application Notes sur des bullet points à chaque livre et tout ça. Et quand on parle d'un sujet, je dis « Ah, ça me fait penser à un truc !» Tu ressors et tu fais « Putain, c'est dans ce livre, il disait ça et tout, tu l'as lu, mais non !» Et ça te donne des sujets. Ça, je trouve ça trop bien.
En deuxième cerveau, c'est pas mal.
Ah ouais, c'est vraiment trop trop bien.
Ton premier téléphone, c'était quoi? Le fameux clapet.
Sony Ericsson. C'était un Sony Ericsson, je sais plus te dire. Après, le plus fou, c'était le BlackBerry Curve, que j'ai vraiment séché. C'était quoi, 920? Non, BlackBerry Curve, 900, je sais plus quoi.
Je me rappelle
le classique
format,
avec les touches, ouais. Quoi, tu vois. Ça, ouais. C'était fou.
Ok. C'est quoi la sortie tech de 2023 que tu attends avec impatience? ChatGPT 4.
Non, en vrai, j'aimerais bien voir ce que pourrait donner GPT. Ouais, c'est cool, tu vois. Ce qui n'a aucun rapport avec une action que j'aurais pu mener maintenant. En anglais, ça donne GPT. Hein. On est bien d'accord là-dessus, hein, parce qu'on me l'a fait à chaque fois. Donc GPT, c'est cool.
je vais pas m'en remettre de cela.
Et Tesla Roadster. J'aimerais bien un jour me dire putain, je vais pas mourir avant qu'il y ait une Tesla Roadster dans ce monde, merde. Ça serait cool. Non, Tesla Roadster, j'aimerais bien. Après, ouais, je pense que enfin, ce que j'aimerais vraiment connaître au-delà de 2023 et tout ça dans ma vie, c'est un voyage en orbite. Ça, je me dis, le jour où je peux me payer un billet et dire on va aller voir la Terre de là-haut, c'est quand même exceptionnel. Ça, je pense que c'est un peu taré, mais c'est exceptionnel. Je dis pas l'aller-retour sur Mars, tu vois, ou l'aller-retour sur la Lune en mode bus, tu vois. Ça, je pense que non. Je suis pas sûr. Peut-être que dans 50-60 ans, mais je pense que ça va quand même demander beaucoup de ressources et que d'ici là, les humains auront été assez intelligents pour se mettre plein de bâtons dans les roues. Il y aura eu tellement de merde qui feront que l'économie sera, à mon avis, déjà repartie de zéro, fait d'autres choses, etc. Donc, malheureusement, on peut pas voir la stabilité... incertaine, tu vois, de ce qui va pouvoir évoluer. Mais 2023, ouais, de façon très pragmatique, ça pourrait être Tesla Roadster, GPT-4, ça pourrait, je pense, être exceptionnel, donc l'intelligence artificielle. Je suis très impatient de voir le prochain iPhone.
Ouais.
Je pense que le prochain iPhone...
Sur une nouvelle ère, logiquement.
Sûrement. Et
selon Léo.
Comment ?
Selon Léo.
Exactement, selon Léo. Les prédictions de Léo.
Si tu n'avais pas été créateur de contenu, qu'est-ce que tu aurais fait?
Alors, il n'y a pas de vanne. Quand j'ai commencé YouTube, etc., et du coup que j'ai voulu le faire sérieusement, j'avais 16 piges. J'avais la possibilité de faire un stage en entreprise. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. Parce que j'ai compris très jeune que l'argent pouvait résoudre plein de problèmes. Et à un moment, j'étais omnibulé par ça. Et je comprenais que dalle, en fait, à ça. Et je ne comprenais pas la vision de ce truc-là. Donc, je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant de faire un stage dans le trading. Donc, je pense que si je n'avais pas été YouTuber, je serais trader et probablement mort.
Le loup de Wall Street.
Mais je le dis sans vanne. Hein, mais mort au sens où j'aurais pas pu vivre sans créativité.
Ouais.
Et je peux pas vivre pour des chiffres et encore moins en me disant que je me fais de l'argent sur des gens que j'encule de l'autre côté, quoi. Quand t'en as qui gagnent, t'en as toujours qui perdent.
Ouais, donc, puis le métier de trader, c'est un métier quand même.
C'est et j'ai pas du tout
très long terme
pour ça. Du coup, je me suis dit non, vas-y, c'est plus cool, création quand même moins stressant et tout ça. Mais j'aurais pu approcher, à mon avis, ce milieu-là. Je pense que c'est le seul métier que j'aurais pu vraiment faire parce que j'aurais adoré le vrai métier que j'aurais adoré faire quand j'étais tout petit, c'était pilote.
Ouais.
Et c'était pour du loisir et tout ça, et ma famille a jamais été ok pour me mettre en mode pro, mais j'aurais pu, en étant très jeune, j'en faisais à 5 ans, tu vois, du kart de façon poussée et tout, donc j'aurais pu si ma famille m'avait poussé, ça j'aurais, je pense, vraiment kiffé. Mais il y a un truc que je regretterais peut-être parce que je le connaîtrais jamais de ma vie, c'est l'adrénaline, soit quand tu chantes devant 60 000 personnes, soit quand t'es regardé par des millions de personnes ou que t'es sur une course de départ, sur une, tu vois, sur un championship où tu peux être champion du monde. À un moment donné, t'as pas la même sensation en gagnant 1 million d'abonnés sur YouTube, tu vois, quand tu passes les millions, tu fais bon, cool, c'est un chiffre, mais c'est pas, t'as pas ce truc, c'est pour ça que je me force à vivre des expériences humaines. C'est quand je vais voir les gens chez eux, etc., que je me dis putain, c'est réel, genre ça, c'est incroyable. Mais je pense que c'est ce truc là qui me.
Cette montée d'adrénaline,
ouais,
tu vois.
Ça, ça m'anime de fou, ouais. C'est ce que j'adore. C'est pour ça que j'avais adoré faire une ou deux conférences, etc. On avait fait une belle conférence avec plus de 2000 personnes à un moment avec Manuel au tout début en Suisse. Oh, c'est trop bien. Tu vois des gens qui se font chier et tout, et tu te dis, putain, est-ce qu'ils vont repartir avec le sourire? Est-ce que je vais réussir à faire quelque chose ou pas? Ça, c'est trop cool. Ouais. De voir vraiment le retour humain d'un coup. C'est ce qui me manque, je pense, dans mon métier, et c'est pour ça que j'adore Twitch. Twitch, je trouve ça exceptionnel. Tu dis une connerie, on te le fait remarquer. Ils adorent, ils sont en mode, wow, clip, machin et tout. C'est trop marrant, tu vois.
Tu finis vraiment... en extrait sur TikTok.
C'est trop marrant, c'est instantané, tu vois. Ça, c'est vraiment cool. C'est pour ça que j'aime bien, je pense, Twitch.
Okay. Si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière, ce serait laquelle?
J'ai réussi à trouver la réponse. Ah, elle était très compliquée. PayPal.
Ok.
PayPal, pour moi, c'est de la pure innovation, du pur génie au tout début quand je suis ado et que je dois payer en ligne, etc. et que je découvre PayPal. C'est un truc de fou. Elon Musk revend la boîte et tout ça. Et là, aujourd'hui, ils font plus rien. T'as Crypto.com qui arrive, t'as Coinbase, etc. T'as eu des faillites énormes comme FTX là récemment. Mais au milieu, t'as PayPal qui est un truc exceptionnel avec des capacités exceptionnelles. Tout le monde s'en branle. Aujourd'hui, ils sont cotés à $70 en bourse. Ils ont perdu je sais plus combien de pourcents. Tout le monde s'en branle de PayPal alors que c'est un truc qui est exceptionnel. Et il n'y a toujours pas de carte bancaire PayPal. C'est toujours pas affilié à American Express. Tu n'as aucun partenariat. Tu n'as pas de trucs sur les... Tu as tellement de trucs à faire. Tu as tellement de trucs à faire avec PayPal que je me dis, putain, si je pouvais tout faire sans limite, ça serait PayPal.
Ouais, et puis en plus, ils ont déjà une force de frappe de ouf.
Énorme,
donc, qui
énorme.
Pourrait potentiellement être décuplée, quoi.
Et tu te dis, c'est pas possible de les voir dans la sauce avec des trucs en mode, ah, ben alors, votre argent là appartient pas. En fait, tu vois des trucs, tu te dis, mais mec, comment c'est possible aujourd'hui d'avoir des boîtes qui sont naissantes comme Trade Republic, comme N26 et tout, qui pètent le truc, qui arrivent, qui avancent. Tu vois au milieu un géant comme PayPal et qui se fait encore troller par son fondateur sur Twitter en disant, eh, moi, la concurrence est PayPal avec Twitter. Et ma mère, elle va pas payer demain avec Twitter. Hein. Je veux bien Elon. Ah, pas demain la veille. Par contre, PayPal, elle est déjà ancrée dans la tête de ma mère. PayPal, tu pourrais en faire un moyen de paiement, etc. American Express, ils ont réussi à avoir ma mère en tant que client, tu vois. Et pour moi, PayPal, c'est la même. Donc, je suis très, très, très curieux de cette boîte.
Ta mère ne veut pas être certif sur Twitter.
Non. Alors, rien à foutre. Mais alors, rien à foutre. Non, j'aimerais bien... ouais, PayPal, ça serait un bel enjeu, en tout cas. Moi, je cherchais une entreprise pour te répondre à la question où ça soit un peu rigolo.
Ouais,
pas un truc qui... Tu vois, au départ, je me mets, ouais, génial, l'industrie du luxe avec LVMH ou machin ou Tesla, mais c'est trop classique, ça marche déjà. Tu vas arriver, tu vas faire quoi? T'es rentier. Tu vois, t'as rien à foutre. Dis, bah, tant que de tout ça rien, ça marche. Tu vois, c'est horrible.
Ouais, je t'accorde.
Non, PayPal, ça peut être marrant. Un bon terrain de jeu, je pense.
Il me reste deux questions pour toi. L'avant-dernière, c'est quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour de futurs épisodes?
Ça serait intéressant que t'aies un début d'entrepreneuriat. Je pense à un créateur Influx qui est Alexis Vanden, qui là passe de créateur de contenu à entrepreneur. Ça peut être super intéressant avec une vision plus jeune, du coup. Et Guillaume Play, sur le Media Legend,
ouais,
qu'il a lancé, il y a 18 ans de radio, etc. Derrière, il y a, je pense, un bon parcours.
Il y a du boulot, hein.
Ça peut être intéressant.
Ok, super. Et la dernière, que tu as peut-être déjà préparée, c'est quoi pour toi un entrepreneur ?
C'est super difficile à définir parce qu'en fait, tu as tellement de bons entrepreneurs et tellement différents à chaque fois que...
J'ai pas dit c'est quoi un bon entrepreneur, j'ai dit c'est quoi un entrepreneur.
Ouais. Mais déjà, je sais même pas si... Tu vois, j'ai du mal à me considérer comme entrepreneur. Donc, je dirais que c'est une personne qui répond souvent oui, là où d'autres répondent que c'est impossible. Pour moi, c'est ça, un entrepreneur.
Mais écoute, ça va être les mots de la fin.
Merci.
La manière de finir cet épisode. C'était cool, j'espère que ça t'a plu.
De fou. Merci, ouais, pour l'invitation, j'étais ravi. Et puis voilà, je sais pas si ça a aidé ou en tout cas donné des idées, mais trop bien si c'est le cas à certains en tout cas.
Je pense, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ces quasi 2 heures d'échange, 1h40 et quelques. Et ouais, putain, c'est fou, c'est incroyable.
Putain, je regardais ta chaîne, je me disais, je vais pas cliquer sur les interviews qui font 1h40 et là, bam, dans ma gueule. Merci en tout cas.
C'est
merci
parti.
Pour tout, François.
Non, c'était giga cool. Et on se retrouve sur Serial sur les prochains épisodes et on mettra tous les liens de Romain en description.
Cheers.
Attends, je vais finir en beauté. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez Serial Entrepreneur et que vous souhaitez nous soutenir, c'est très simple. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme favorite, mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et partager l'épisode à votre réseau. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.